Merci à tous d'être là. Merci à Bruno Carcenti de répondre à mes questions parce qu'il m'a menacé de me laisser parler. Et donc, non, on va, vous allez m'aider à le faire répondre. Je vous dis un peu comment j'ai préparé un peu la discussion de ce soir, qui va principalement porter sur un ouvrage de Bruno Carcenti qui s'appelle « Moïse et l'idée de peuple, la vérité historique selon Freud ». Et donc on va essayer d'explorer cet ouvrage, qui est un ouvrage sur l'ouvrage de Freud, « L'homme Moïse et la religion monothéiste ».
Excusez-moi, j'avais avec une détestable désinformation. Il n'est agréable, j'entends quelqu'un parler, surtout quelqu'un de qualité, de savoir d'où il vient.
J'entends.
Et cette provocation, je vais la trouver pour un peu, parce que ça permet d'éclairer,
Alors on va faire deux choses. On va faire une question de préséance, que Bruno Carcenti va se présenter.
Voilà. Et... Alors c'est pas moi qui vais présenter. J'enseigne la philosophie depuis très longtemps, et depuis 2006 à l'école de études en sciences sociales, à la philosophie politique et la pensée sociale et politique contemporaine à l'EHESS. Et j'ai une histoire avec cet ami de Rache, puisque j'étais ici il y a 20 ans. J'ai souvenir que j'ai avec le Rache, c'était ami. Il y a une vingtaine d'années, j'ai suivi le souvenir du Rache.
Merci. Ah, donc j'ai écrit une thèse en histoire contemporaine sur un juif d'Égypte qui est né au début du XXe siècle, qui est devenu sioniste, qui s'est converti au catholicisme, qui est devenu prêtre et dominicain et qui s'est intéressé du coup au rapport entre judaïsme et christianisme et qui a fait aussi de la philosophie des religions et de la théologie des religions. Et depuis, je travaille pour une association qui s'appelle Enquête, qui a pour objet...
Il s'appelle comment ?
Il s'appelle Jean de Ménaché. Que vous avez peut-être croisé dans des librairies, parce qu'il a écrit notamment un des premiers ouvrages en français sur le chassidisme, une fois qu'il s'est converti. C'était son premier chantier après sa conversion. Ça s'appelle « Quand Israël aime Dieu ». Pardon ?
Il est devenu chrétien.
Il est devenu catholique. Voilà.
Passionné pour le chrétisme
après. Oui.
C'est pas totalement.
C'est pas aberrant.
Non, c'est pas aberrant, mais ça nous emmènerait dans tout autre sujet. Bien qu'on va parler de judaïsme et christianisme ce soir.
Un peu de respect,
sur le chrétisme, surtout sur les saints, les vieux pères.
Oui. Spécialiste d'histoire des religions, donc il est né en Égypte à Alexandrie, d'une grande famille juive égyptienne. Oui, il a une vie assez romanesque par ailleurs, des productions intellectuelles importantes. Mais je l'ai quitté donc depuis 2 ans pour travailler avec les enfants et les adolescents pour travailler les questions de pluralisme religieux. Donc de travailler à une compréhension de la laïcité en faisant la différence entre ce qui relève des savoirs et des croyances, et on parle donc des différentes convictions, notamment du judaïsme, et la séance m'intéresse particulièrement parce que vous pouvez vous douter que quand on parle de judaïsme ou de juif avec des enfants, des adolescents, des adultes, la question de qu'est-ce que c'est est compliquée. Voilà. Et donc ce soir, Alexandre m'a fait retravailler des questions plus théoriques. Je vous demande votre indulgence parce que ça faisait un bout de temps que je n'ai plus fait ça. Voilà. Donc on a deux livres. On a le livre de Freud, qui est une enquête sur le peuple juif. Qui est une enquête passionnante sur le peuple juif. Et il y a le livre de Bruno Carcenti qui est une enquête tout aussi passionnante sur qu'est-ce que Freud a fait dans ce livre. Donc on va essayer de... On va principalement parler de ce sujet-là, avec l'idée, qui est l'idée principale de Bruno Fersanti, que Freud, dans le texte sur Moïse, parle de ce qu'est le politique, peut-être en soi, qu'est-ce que c'est la politique, et parle aussi de notre situation politique occidentale, peut-être dans la modernité politique également. Ça va être le gros du morceau. Vous avez reçu un mail comme moi qui était une vidéo que Yona Abitbol a proposé a voulu partager avec nous. Je le vois pas. Mais
exceptionnellement, cette séance.
Voilà. Mais peut-être que vous l'avez regardé comme moi. Mais du coup, je vais en parler brièvement parce que ça rejoint un peu le séminaire précédent et notre propos de ce soir. Donc, il a partagé avec nous une vidéo. Du philosophe Jean-François Mattei qui s'interrogeait sur qu'est-ce que la politique et qui partait principalement de deux philosophes contemporains, Jan Patočka et Hannah Arendt. Et donc ce monsieur Jean-François Mattei parlait du politique en partant des Grecs, ce qui nous paraît en fait assez logique. Dans la pensée commune sur qu'est-ce que c'est la politique occidentale. Et donc lui, il dit précisément la pensée occidentale, la pensée européenne, c'est une pensée politique, c'est une pensée politique, et c'est Platon, c'est un regard critique sur qu'est-ce que c'est la vie en cité, qu'est-ce que c'est la politique ou la république. Et il parle de ça, il parle... aussi principal. Il parle aussi du théâtre et du lien entre théâtre et politique. Et là, il y a peut-être un lien à la fois entre le séminaire de la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez que donc Yona Abitbol avait proposé comme une sorte de définition de la politique juive en partant du traité Megillah, que la politique juive, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonde un collectif dans la tradition juive. Donc il a dit dit bonhomme qui se retrouve pour écouter la lecture, et il dit pas la lecture parce que justement il fait une nuance ici, la déclamation d'un texte pour réactualiser le fait qu'ils ont écouté une parole. Donc on fait une mise en scène du fait qu'il y a un collectif qui a écouté une parole, et ce serait ça qui fonde, alors il s'est amusé à faire de l'étymologie, la irout. La police, ir, c'est ville en hébreu, donc la irout, c'est la politique juive. Alors peut-être qu'on ne sait pas, parce qu'il n'est pas là, donc moi je dis à quoi ça m'a fait penser, le fait qu'il nous ait partagé cette vidéo, ça m'a fait penser à un parallélisme potentiel. On a d'un côté donc la irout juive, c'est dit batlanim, dit bonhomme, qui viennent écouter une parole. Et on a une cité grecque, où il faut se rappeler donc du lien avec le théâtre. Dans la cité grecque, le théâtre, c'est quelque chose de civique. Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires d'État. On a des fonctionnaires d'État qui prévoient l'organisation d'un concours théâtral. Tous les citoyens doivent venir et ils vont écouter des éloges de Dieu, mais aussi une comédie, des tragédies. Et à la fin, il y a un juré tiré au sort qui va dire... qui va élire en fait le gagnant du concours, et ça c'est une activité civique religieuse grecque. Alors est-ce que c'est ce parallèle là auquel on pourra peut-être réfléchir? Alors ça rejoint notre question de ce soir, parce que on va y pénétrer petit à petit et explorer la chose, mais voilà, de Freud dans son livre, et Bruno Fersanti l'explique assez bien. Il renvoie d'une certaine manière, et c'est plus complexe que ça, et il faudra nous expliquer. Il renvoie les Grecs à un peuple pas si singulier que ça en termes de politique, et en tout cas il crée une opposition entre, il dit, cette littérature épique, mythique, voire qui se transforme ensuite en littérature tragique, c'est de la culture, c'est de la littérature, c'est de la poésie. C'est pas de la politique, dans le sens où on trouverait ça dans ce qui s'est passé chez les Juifs. Bon, alors moi je ferme ce que Yona a voulu nous partager, mais on va revenir aux Juifs et aux Grecs. Et avant de passer au gros morceau pour se détendre et pour vous faire travailler pendant que vous m'écoutez, le fait d'avoir donc relu le livre de Bruno Carcenti, donc il travaille, on va y revenir, il fait, on a principalement dans un premier temps, qui est le plus simple, une sorte de dichotomie. On va y revenir, mais quelque chose de l'ordre culturel, une formation, une société, une culture, et quelque chose qui serait le politique, qui serait arrivé une fois chez les Juifs, puis dans la modernité, peut-être. Bon, alors il y a deux choses. On a une pensée binaire, là, qui se complexifie après. Et là, moi, je suis un peu perdue, et du coup, je vais pouvoir poser mes questions, et ça va nous aider. Bon, ça m'a fait penser, il y a deux expressions dans la Torah. Enfin, on pense à deux choses. On pense, il y a Am et il y a Goy. Et enfin, je vous dis les expressions auxquelles j'ai pensé. Donc, Am Echad, un Am Echad, le premier Am, c'est à Babel. La tour de Babel, on a un Am Echad. Bon, on a un peuple uni avec une Safa Echad. Avec un, moi j'en sais rien, hein, avec un discours à un. Bon, ça c'est la première occurrence, si j'ai bien travaillé dans mes concordances de Ham. Goy précède Ham. Quand on a les généalogies des enfants de Noé, on a des Goyim, et en lien avec des terres et en lien avec des Lachon, avec des langues. Alors on pourrait avoir l'impression là qu'on a une bonne dichotomie, sauf qu'en fait c'est plus compliqué que ça, donc je vous le soumets juste parce que donc il y a Goy Kadosh et il y a que Dieu, il choisit un âme, il dit je vais libérer mon âme, sauf qu'on a aussi âme Kadosh, donc on a Goy Kadosh et âme Kadosh, on a âme Segula qui est peut-être la même idée, alors le peuple trésor, âme Segula et Lion Alcol Goyim. Donc c'est le peuple trésor sur tous les autres peuples, donc sur tous les autres goy. Il y a une phrase qui est pas mal, en Exode 33:13, où il y a Moïse qui dit c'est ton âme ce goy. Il parle à Dieu, il dit c'est ton âme ce goy. Donc bon. Alors bon, bah je propose aux personnes plus érudites que moi de commencer à faire marcher leur mémoire, créativité, et voilà, j'ai juste fait ce petit tour d'horizon. Voilà, alors avant de passer au livre de Bruno Carcenti, j'ai juste dire que c'est intéressant, j'ai relu la présentation de Freud par lui-même, mais ça a été écrit avant... Ça a été écrit avant L'homme, Moïse et la religion monothéiste, parce que ce texte-là date de 38. Et la présentation par lui-même date des années 20. Mais c'est juste intéressant de remarquer que les premières choses que Freud dit sur lui, c'est « Je suis resté juif ». Quand je suis allée à l'université, les autres disaient que je faisais pas partie du folk, donc du peuple, mais ça m'a pas trop embêtée parce que je penserais que j'arriverais à me faire ma place dans l'humanité. Et il dit que, a priori, lui, il avait pas un intérêt pour les sciences dures, mais pour les sciences du Geist, pour les Geistwissenschaft, et notamment pour l'histoire biblique. Donc, bon, il nous écrit, et en 38, donc il y a l'homme Moïse qui paraît. Mais, bon, alors, dans ce livre, il a essayé de comprendre ce que c'est le caractère juif, et donc de se, en partie, se comprendre lui-même, hein, c'est la première chose qu'il veut nous dire. Pour le comprendre, il faut comprendre qu'il est resté juif, qu'il ne fait pas partie du folk, du moins du folk de là où il est né, hein, du folk de Vienne, en tout cas. Précise pas lui. Voilà. Et on peut commencer à s'intéresser au livre. Je suis désolée, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà. Bon, alors ce que dit Bruno Carcenti, c'est original. Donc il dit donc que le Moïse, on pourrait penser que ça parle de religion ou au moins de qu'est-ce que c'est les juifs, alors il dit non, il dit ça parle de qu'est-ce que c'est la politique. la politique comme telle. Et il dit que Freud, il a commencé à s'intéresser donc aux formations des sociétés humaines quand il a écrit Totem et Tabou, donc livre de 1912. On va revenir au récit qu'il y a dans ces deux livres. Hein, mais, donc il dit Totem et Tabou, ça suffit pas pour comprendre notre situation politique, celle de l'histoire des sociétés occidentales. Et il dit que la tournure politique de l'histoire des sociétés humaines, alors elle se comprend par cette émergence du politique dans l'histoire juive, et que le christianisme, il a porté ça d'une manière ou d'une autre. Les juifs et le christianisme, d'une manière ou d'une autre, il a porté ça. Donc ça doit nous aider, ce livre, à comprendre qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est notre histoire politique occidentale. On verra à la fin, parce qu'il faut d'abord tout comprendre, est-ce que ça nous dit quelque chose de... Qu'est-ce qu'on fait de la politique aujourd'hui, je sais pas. Et on va travailler le livre en trois temps. D'abord, on va explorer ces deux lignes. Donc il y a une ligne qui est les sociétés normales, les sociétés culturelles. Voilà, des sociétés. Il y a des sociétés partout, il y a des sociétés. Et pas partout, il y a du politique. Donc il y a un système d'opposition. Ensuite, on va parler de la question de notre société occidentale. Ça veut dire comment ça marche, le triangle juif, grec, chrétien, avec des notions un peu, avec des notions plus compliquées à comprendre. Et ensuite, on va essayer de parler de l'aujourd'hui, si on peut, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, du coup, comme j'ai beaucoup parlé, est-ce que tu voudrais faire les deux lignes, en tout cas, mais de la manière la plus simple possible, les deux meurtres, nous dire les deux meurtres. Le meurtre de Totem et Tabou, il y a un premier meurtre, parce qu'on fait des enquêtes. À l'origine de toute société, il y a un premier meurtre. Et à l'origine du politique, il y a un deuxième meurtre, celui de Moïse. Alors le premier meurtre, il va mener à ce qu'il y ait une société qui ait des lois. Et là, on a une société qui a un rapport à des lois. Et Bruno Corsenti nous dit qu'il y a un deuxième meurtre. Après, on va expliquer tout ce qui se passe pour qu'on arrive à la politique. Et c'est très dense. Mais en tout cas, il y a un deuxième meurtre qui nous mène à autre chose, qui nous mène au rapport d'un peuple à sa loi. Voilà. Et donc, peut-être on fait Totem et Tabou pour expliquer les formations sociales. Alors, je peux te laisser le dire, sinon on peut trouver dans... Et après, on explore qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ensuite la politique. Voilà.
Tu veux que j'enchaîne, hein, maintenant? Ouais. Je fais un commentaire de ce que tu as déjà dit, et peut-être je te refais la parole. Comment tu as vu?
Oui, ça serait bien.
Je veux faire ça. Hein? Ce serait bien. D'accord. D'abord, merci beaucoup d'avoir pris le problème par la question de la différence entre les sociétés communes par culture et les sociétés dont le développement culturel permet l'émergence d'une de ce que j'appelle la politique, hein, mais que je définis dans le livre plus précisément comme la politique en tant qu'elle vise à produire ou à construire une expérience de l'autonomie, hein, une expérience de du peuple comme ayant sa définition dans ce qui est en mesure de se donner sa loi, hein, de se donner sa loi. Et donc, une politique qui trouve son accomplissement dans l'expérience démocratique. Une politique qui est orientée vers la politique moderne. La généalogie de la politique moderne. En fait, c'est ça, l'objet du livre, c'est généalogie de la politique moderne. Où faut-il remonter? À quel type de distinction faut-il s'accrocher pour comprendre cet événement relativement singulier qu'une société engendre un type de pouvoir dans lequel le peuple se projette au niveau de ce qui fait la loi et pour se l'appliquer à lui-même. Alors, d'une certaine manière, j'ai, en venant ici, je vous avoue que j'ai mobilisé des souvenirs. Je disais que je venais ici il y a très longtemps, et il y a eu une des premières séances auxquelles j'ai assisté, des chirurgiens de Rav Weinstein, je me souviens, c'était sur les villes refuges, ce séminaire presque 20 ans, je pense. C'est ça, 18, non? Quelque chose comme ça. Ouais, bon. Et alors, il y a eu un épisode dans cette. C'était pas ici, c'était dans le bruit de Bélin. Avant que ce. Le thème crache. Il y a eu un épisode très très drôle, moi j'avais beaucoup ri. Il y avait des. À un moment, le Rav commentait le combat de Yaakov avec l'ange. Et je ne sais pas si vous vous souvenez. Et non, vous avez pu le commenter plusieurs fois. Mais là, le commentaire était au fond tourné autour de l'idée que Yaakov combattait les nations, en fait. Hein, que c'était le combat contre les nations. Et on était un public très très hétéroclite. Et quelqu'un, je ne sais pas, avec un, il a dit cette phrase, dans la culture juive, pourtant, et ça a commencé comme ça, dans la culture juive, pourtant, et là, vous l'avez interrompu. Et vous lui avez dit, il n'y a pas de culture juive. Et vous avez dit, c'est resté gravé dans ma mémoire, nous, il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de médiation, c'était votre formule. Nous avons la ligne directe. Et là, votre portable avait sonné. C'était un moment absolument inouï de ce que vous avez. Et voilà, donc j'ai gardé ce souvenir, c'était très très drôle. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui m'a que je trouve très juste dans cette idée que quand on parlait du combat avec les nations de Yaakov, on parlait aussi de la singularité de l'expérience juive en tant qu'elle est une nation qui n'a pas pour accéder à Dieu besoin de médiation de type culturel. Donc il n'y a pas de production de la nation juive qui serait de l'ordre d'objets ou de pensées ou de livres hein, qui servirait à aménager un accès à Dieu. Bon, ça, la Torah n'est pas un objet culturel. Évidemment, c'était ça la première conclusion. La Torah n'est pas une production. Mais du même coup, le peuple est-il cultivé? Quand il lit, quand il étudie, fait-il un exercice de l'ordre de l'exercice? Parce qu'après, Dany, on a souvent parlé de cette question et de ce qui nous différenciait des gens cultivés qu'on connaissait. parce qu'on connaît des gens cultivés, des gens très cultivés. Mais ça touche quelque chose que, au fond, je n'ai pas cessé de travailler dans les années, et dont le livre sur le Moïse de Faune est effectivement une illustration, une étape dans ma réflexion sur cette question. Alors, qu'est-ce que ça signifie donc, revenir à la différence entre, comme le dit Prénamel, des sociétés qui entrent dans le destin de la culture, hein, et une société qui fait une expérience qui l'ouvre sur autre chose que le fait de se cultiver parce qu'elle ne demeure pas dans une pure immédiateté non plus, mais elle s'ouvre à un travail sur elle-même, hein, qui n'est pas de l'ordre de la culture, ou c'est-à-dire de la progression de son esprit en vue d'accéder graduellement à Dieu, de s'accomplir en Dieu. Alors, le livre de Freud m'a toujours fasciné parce que, d'abord, c'est quelques éléments de l'écriture de ce livre. Hein. C'est un livre qu'on peut interpréter comme un testament parce que c'est son tout dernier livre. Hein. C'est un livre tout de même qui parle de lui, hein, puisqu'il parle des Juifs. Il ne s'exclut pas du tout du récit. Hein. Les premières lignes du livre disent « Ce n'est pas d'un cœur léger que j'entreprends d'enlever son fils ou plus grand homme hein, à ce peuple, puisqu'il y a une proposition scandaleuse dans celui qui est de dire que Moïse n'était pas juif, hein, que Moïse était un étranger. Bon. Ce n'est pas d'un cœur léger que je le fais, surtout à ce moment historique, hein, où ce peuple est persécuté. Hein, parce que le livre est écrit entre 37 et 38. Hein, une partie écrite avant l'Anschluss, avant le départ de Freud de Vienne, et une autre partie écrite à Londres. Et la décision de publier ce livre, puisque justement ce n'est pas d'un cœur léger et qu'il hésite à froisser la conscience juive avec ce qu'il estime avoir à dire sur cette question, ce n'est pas d'un cœur léger qu'il le fait, néanmoins il pense qu'il peut le faire en Angleterre, dans la libre Angleterre, parce qu'il fait courir moins de risques parlant depuis l'Angleterre, et aussi parce que peut-être il a précisé dans la dernière partie du texte, juste avant de publier, ce qu'il avait vraiment à dire, pas seulement de critique sur les Juifs, parce qu'il y a un aspect critique sur les Juifs dans ce livre, mais au contraire de valorisant sur les Juifs. À mon sens, le livre vraiment culmine dans l'idée que les Juifs sont dépositaires de quelque chose d'essentiel à la culture occidentale. Et là, je réemploie le mot de culture. Ils ne sont peut-être pas cultivés comme les autres nations le sont, mais ce qu'ils ont à dire est en réalité essentiel aux autres nations. Et donc, évidemment, là, la question traditionnelle se pose de cette nation sainte, hein, de cette nation sainte. Elle se pose dans des termes qui ne sont pas du tout des termes religieux, qui sont des termes psychanalytiques, mais elle se pose. Hein, une nation qui a à dire quelque chose au monde du fait de la singularité de son expérience. Voilà. Alors, les deux, puisque c'est ta question, je vais te redonner la parole ensuite, les deux destins. Donc effectivement, il y a Totem et Tabou, c'est son livre sur ce que c'est que la culture en général. Toutes les cultures procèdent de la même construction pour Freud. Elles procèdent effectivement d'un événement fondateur qui est de l'ordre du meurtre du père de la horde. Hein, les sociétés primitives sont des hordes, elles sont dominées par un homme tyrannique qui possède toutes les femmes. En fait, les fils s'allient et le tuent, et de ce meurtre, c'est le récit freudien, mais une forme de culpabilité. Une forme de culpabilité qui, en fait, construit l'idée de devoir, d'une certaine manière. Donc l'idée d'obligation inscrite dans le fait de se cultiver, d'entrer dans une culture. Avoir une culture, c'est forcément arrimer à soi la contrainte liée pour Freud à une expérience de culpabilité. pas de culture sans expérience de culpabilité, et pas de culpabilité sans meurtre du père. Si je peux résumer très rapidement, le point freudien sur la culture, ce serait ça. Bon, les juifs, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour... mais c'est bien sur cette ligne, il ne les exclut pas. Il y a une thèse d'anthropologie générale. Toute manifestation sociale particulière, socio-historique particulière, doit entrer dans ce cadre. Mais avec les juifs, il est confronté à une histoire du père, du grand homme, justement, du grand homme qui n'est pas un père. Et c'est le fait de se concentrer sur ce personnage fondateur au sens où il donne la loi, hein, où c'est par lui que la loi passe, hein, c'est ça la raison de la concentration du regard sur Moïse, c'est dans cette culture-là, c'est par lui que la loi passe. Il n'y a pas de corrélation entre le peuple et la loi sans l'invocation de cette figure. Eh bien, celui-là, celui par qui la loi passe, est un personnage extrêmement curieux. Parce que, par rapport aux autres cultures, il est très évident qu'il est affecté d'un caractère d'étranger. D'étranger à ce peuple même. Tout un récit est évidemment construit pour diminuer, atténuer, annuler cette étrangeté. C'est la fameuse blague qui vous fait beaucoup rire. Dans une école juive, le rav interroge l'enfant et il lui demande qui est Moïse. Il dit c'est le fils d'une princesse égyptienne. Alors le rav dit pas du tout. Enfin, c'est l'enfant qui a été trouvé par la princesse égyptienne. Et là, non, pas bon. Ça, c'est ce qu'elle dit. Bon. Bon, mais c'est le. Vous voyez, c'est là qu'on on saisit le cœur de ce qui a captivé Freud. Donc, cette étrangeté de Moïse, elle est liée. Pour lui, au fait que, en réalité, les autres cultures, celles dans la filiation de totem et tabou, n'ont pas d'expérience de la loi. Elles ont une expérience de la contrainte. Elles ont une expérience de la culpabilité. Mais en fait, de ce récit interne, vous n'avez pas de quoi construire le véritable concept de loi. Et, pour une raison, c'est que vous n'avez pas les moyens dans les autres cultures, dans Totem et Tabou, de rattacher les deux pôles que sont la loi et le peuple. Parce que pourquoi un peuple, pourquoi un collectif humain consentirait à l'obéissance? Est-ce que la culpabilité suffit à justifier le consentement à l'obéissance à une norme, on va dire, c'est pas la loi, une norme? Hein, s'il n'y a pas l'idée que cette norme lui correspond, s'il n'y a pas l'idée que cette norme est la sienne, c'est cette appropriation de la norme qui fait qu'elle est loi au sens freudien. Et donc c'est ce rapport entre peuple et loi, c'est pour ça que j'ai appelé Moïse et l'idée de peuple, c'est que, et ça c'est peut-être l'objet sur lequel on pourra discuter, hein, c'est. Donc pour entrer dans la distinction Ham-Goy, quel est pour les juifs le sens du possessif, hein? C'est sa loi. Et en quoi ce sens du possessif est l'élément de constitutif, hein, de ce que c'est que le peuple, en un sens qui ne vaudrait que pour les juifs. Hein. Le fait d'avoir sa propre loi, une loi qui ne correspond en fait qu'à lui, qui n'a été faite que pour lui, c'est ça là, on pense à ce midrash que vous aviez aussi commenté, je me souviens. C'est un célèbre, c'est un midrash, j'imagine. Je ne me souviens plus. Alors, là, c'est vraiment un midrash. Hein, de Dieu proposant à toutes les nations la loi. Hein, et chacune, vous disiez, avait. Oui, mais j'ai retenu les leçons des autres. Vous disiez, avait décliné en négociant. C'est-à-dire, en disant, non, elle est bien, cette loi, c'est vrai qu'elle est très bonne, excellente, etc. Mais nous, on a des mœurs, en fait. On a déjà des choses, et est-ce qu'on pourrait pas garder quelques éléments de notre culture, c'est ça le point, hein, de notre culture qui nous permettrait d'adopter cette loi. Et Dieu disait non, c'est tout et rien. C'est pas seulement tout ou rien, c'est rien. Vous éliminez tout le reste, et là, il y a la loi qui vous fera mon peuple. Bon. Alors, c'est une bande de personnes qui n'ont rien objecté ou n'ont rien eu à proposer, à mettre dans la balance, qui se sont trouvés du coup les bons destinataires. Et donc là, on voit que le sens du possessif, c'est pas seulement un sens du possessif, c'est aussi un sens de l'exclusif. Le possessif est lié à de l'exclusif. Voilà. Et là, on a une forme qui, pour moi, correspond à l'idée de peuple dont la politique moderne, alors c'est ça, en réalité hérite. Donc, le thème du livre, c'est ça. En réalité, la politique moderne hérite de ça. Elle n'est pas pensable sans ça. Quand on se concentre sur les Grecs, on manque ça. Enfin, on acquiert autre chose. Hein. Tal et tout, la politique ne peut pas se penser dans ses sources grecques. Demos, c'est le concept qui nous sert à construire notre idée de démocratie. Mais le modelage grec et le rapport que les Grecs ont bon, on entrera dans la question des Grecs un peu plus tard, d'accord? Mais, toujours pour les souvenirs, quand le Rav me faisait parler, parce qu'il me demandait des exposés de temps en temps, il me disait « Dites-nous ce que pensent les Grecs. » C'est toujours... C'est le philosophe qui a ce rôle dans le...
Elle a ton téléphone, elle se...
Dites-nous ce que pensent les Grecs. Je vous avais fait un exposé sur Aristote. Hein. Bon, et... voilà. Donc, je pense que j'ai suffisamment distingué les deux lignes, en tout cas, la ligne générique dans laquelle, au fond, les Grecs sont. Hein, la ligne de la culture. Et la ligne singulière.
Simplement pour suivre ouais. Votre exposé. Enfin, j'ai pas lu votre livre. Mais
c'est un tort, ça.
Que j'aurais envie de lire après.
On va voir.
Mais suivant ce que vous êtes en train de dire, votre option, ça a été de montrer que ça n'est pas, la politique n'est pas seulement grecque, elle est hébraïque.
Oui.
Et donc, c'est cette ligne hébraïque que vous tendez donc à mettre en évidence.
Oui.
Et qui est sous-évaluée.
Exactement, sous-évaluée. Et en fait, pour être plus. Vous avez entièrement raison, c'est ça, elle est hébraïque, mais elle est hébraïque quand on la touche, on touche son hébraïsme, on va dire. Mm-hmm. Quand on va au plus profond de ce qu'est la politique moderne. C'est ça qui est étrange.
Alors ça, vous voilà. Expliquer.
Oui, ben je peut-être que Anaël va expliquer ça et je vais reprendre après. Vous n'avez pas précisé que le livre commence par un long commentaire du contrat social de Rousseau.
Ouais, alors ma question, moi je voulais lire à la fin. Parce que je voulais comprendre, mais on peut.
Non, allez-y.
On peut décider autrement, parce que peut-être c'est trop insupportable d'attendre en quoi ça a un lien avec la politique.
Ah, moi j'aimerais bien le savoir tout de suite, oui.
Alors on peut faire ça.
Mais.
On peut faire ça, et en fait, comme Rousseau il écrit très bien, on va comprendre
oui,
ensuite,
va dire, oui.
Ce qu'il raconte. Donc Rousseau, en fait, il parle pas mal. Il essaye de comprendre qu'est-ce qu'un. Comment un peuple va se donner sa loi. Si c'est sa loi qui fait un peuple, on a un problème. On a un problème au départ. Si c'est la loi qui fait le peuple, et c'est le peuple qui doit choisir sa loi, mais il n'y a pas de peuple au début, vu que c'est la loi qui fait le peuple. Comment il y a un peuple qui apparaît au début? La loi fait le peuple, or il y a un peuple qui doit se donner une loi, mais il n'y a pas de peuple. Bon, c'est sa question, et c'est là qu'il fait intervenir un personnage, d'une part, un personnage extérieur qu'il appelle le grand législateur, ce qui est assez drôle parce que, en fait, c'est pas un législateur comme on l'entend. C'est-à-dire, il fabrique pas des lois, il s'amuse pas à rédiger des lois, il réfléchit pas à c'est quoi la meilleure constitution possible, le meilleur régime possible. Et parmi ces grands législateurs.
Il est pas grec.
Pardon, j'ai pas entendu.
Non, mais je disais, il est pas grec, justement, dans cette perspective-là, ouais. Je sais pas.
Alors, il règle la question en faisant intervenir notamment Moïse comme exemple du grand législateur. Donc, il faut qu'il y ait un grand homme qui crée un peuple.
C'est précieux aussi.
Il y a quelque chose à dire sur son potentiel aussi au ministère également. Alors, j'essaie de retrouver l'extrait qui est très très parlant. Alors, c'est ça. Ok. Donc il faut qu'il y ait un esprit social en amont, avant même qu'il y ait une loi. Disons même ça. Pour qu'un peuple n'ait sans publicité les saines maximes de la politique. Je coupe un peu. Il faudrait que l'effet puisse devenir la cause. Que l'esprit social, qui doit être l'ouvrage de l'institution, présida à l'institution même. Et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. Ainsi donc, le législateur, ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c'est une nécessité qu'il recourt à une autorité d'un autre ordre qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui convainque ce peuple, qui donne un esprit social, l'idée de faire peuple, et que même il l'insuffle dans les mœurs, en fait, qui crée un esprit social. Et ça, ça passe ni par la violence, ni par convaincre, ni par la conviction. On ne va pas raisonner, en fait. On ne va pas convaincre que c'est bien, en fait, la politique, que c'est bien la démocratie. Ça c'est ce que Moïse il a fait. Il a créé Rousseau, parmi d'autres, notamment Mohamed, avec un truc plus étonnant chez Moïse, c'est que chez Moïse, ça a duré, comme chez Mohamed, mais qu'en plus, il n'y a pas de territoire et il n'y a pas d'État. Donc ça a duré que par ça. Que par cette action d'un grand homme, du grand législateur, qui a fait que le rapport à la loi, c'est devenu l'esprit du peuple, en fait. Il a créé un esprit social. Voilà. Et ça, c'est Rousseau, donc c'est un des fondateurs de la pensée politique moderne. Et donc, pour penser qu'est-ce que c'est un peuple qui est souverain, qui se donne une loi, il passe par Moïse. Voilà le lien avec la politique moderne et de manière générale quand on vit en démocratie. Donc avec cette idée-là, qu'est-ce qui fait qu'un peuple il veut être un collectif politique, et donc il faut qu'il y ait un esprit social, comment il existe, notamment par ces grands hommes qui font en sorte que la politique devienne de l'ordre des mœurs. C'est l'esprit collectif. Il faut que ça insuffle et que ce n'est pas nécessairement rationnel. On ne passe pas par la violence, dans ça on n'a peut-être pas besoin de le discuter, mais voilà.
passe par quoi? Alors, Freud dit autre chose, mais il va avoir toute une élaboration pour comprendre pourquoi ça a marché chez les Juifs, et c'est tellement singulier chez les Juifs qu'on se demande même quoi en faire après, qui va raconter une histoire tellement singulière. Mais Rousseau, il parle notamment d'art politique. Donc, il parle d'art politique au sens, il dit, le grand législateur s'occupe en secret de cette partie inconnue à nos politiques. Alors, il paraît se borner à des règlements particuliers, mais en fait, il travaille les mœurs, les coutumes, l'opinion, et sans avoir l'air de rien. Il insuffle quelque chose, on n'a pas l'impression qu'il fait grand chose, il insuffle quelque chose, et dans le cas des Juifs, il parle notamment de cette idée de cérémonie, rite, ça passe pas par du discours, ça passe par des cérémonies, des rites, beaucoup de choses sur les mœurs, que ça doit pénétrer. Voilà. Alors, voilà ce qu'il nous dit Rousseau. Et alors, Freud, il va dire aussi quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que on n'est plus dans l'ordre de la contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, la loi va devenir... C'est vous qui proposez la chose, en même temps. Une idée pulsionnelle. C'est-à-dire le fait d'avoir de vivre avec cette loi, ça va être de l'ordre de la pulsion. Et on va avoir un peuple qui va exister que par là, en fait. Il va exister que par là. Et ça, c'est à la suite d'un long processus. Vous allez voir, c'est un peu barré, en fait, ce qu'il propose, hein, comme histoire. C'est très complexe. En fait, ce que je propose, c'est de partir de différents éléments, de comment il décrit, donc il dit qu'il y a une vérité historique. Pour comprendre ce qui s'est passé chez les Juifs, il faut comprendre la vérité historique, et ça, la psychanalyse, elle permet de le faire. Avec une question qui est assez culottée en fait au départ, il dit d'où ça sort qu'un peuple qui sont pas grand chose, c'est un peuple qui se singularisait pas, d'où un peuple il arrive à l'idée qu'il s'est fait élire par Dieu unique, d'où cette idée qu'on retrouve donc dans la Bible, qui s'appelle la fiction pieuse ensuite que les Juifs vont se raconter, comment cette idée peut émerger? A priori, elle n'émerge pas. Un peuple de rien du tout, comment il arrive à cette idée qu'il a été élu par un Dieu unique qui lui donne sa loi, et donc il faut qu'il trouve, comme dans une situation analytique, il faut qu'il trouve ce qui s'est passé. Donc ça commence par en effet une élection, mais c'est Moïse, donc un Égyptien, qui va élire un peuple pour lui proposer une loi qui avait déjà été proposée en Égypte par Akhenaton, pharaon égyptien, qui a en fait le premier fait une religion qui ressemble, mais qui ne ressemble pas tout à fait, à la religion monothéiste. Un dieu, un éloignement du sensible, une sensibilité éthique à la justice, un éloignement des pratiques rituelles efficaces. Voilà. Donc il dit ça a déjà eu lieu. Moïse, c'est un Égyptien, donc lui, ce projet-là lui tient à cœur. Et ça n'a pas marché en Égypte. Le peuple égyptien n'en a pas voulu. Moïse, il renonce pas, il choisit un peuple. Et c'est bien, un midrash dit quelque chose comme ça, mais j'ai pas eu le temps de retrouver la référence, que la femme de Moïse, donc elle est couchite. Il y a une histoire comme ça, que en fait, Moïse il a déjà fait le coup de choisir un peuple, il a essayé avec les couchines, et ça n'a pas marché non plus, il l'a refait. Il faudrait retrouver la référence, je rechercherai après, on va l'envoyer. Mais... Donc Moïse il refait en fait, donc il se choisit un peuple, et c'est ça l'élection. C'est Moïse qui a élu. Et c'est que par là qu'on peut comprendre un homme extérieur au peuple qui a élu un peuple. Ensuite, il se passe plein de choses. On va commencer au début. C'est un truc étonnant dans le début, parce qu'en fait, il y a un truc singulier dès le début. C'est que, un, Moïse est un homme énergique. C'est comme ça qu'il le caractérise. Freud est peut-être ressenti aussi. Et ce peuple, dont on ne sait pas grand-chose, en fait, ils sont énergiques aussi. De ce peuple, alors est-ce qu'on peut faire sans mais en fait on le met à la base, il y a une sorte de peuple qui a un caractère et ils sont indociles, ils sont énergiques. D'où elle sort leur énergie? Est-ce que c'est Moïse qui leur a transmis une énergie? Est-ce que bon, on a un peuple énergique, indocile, et c'est important qu'ils soient indociles vu qu'il faut qu'ils tuent Moïse pour que l'histoire commence. Il faut qu'ils tuent Moïse pour que l'histoire commence et qu'ensuite c'est au départ élection, meurtre, trauma du meurtre, et ensuite du fait qu'il se mélange à un autre peuple et que ce meurtre va être caché, on va avoir une tradition avec un texte écrit et une tradition orale. Et on va avoir donc quelque chose de très particulier, de mélange d'écrit et d'oral qui va raconter une certaine histoire, et c'est ça qui va faire que ça tient. Donc il y a une élection, il y a le meurtre. Il y a le trauma du meurtre, ça c'est la culpabilité, mais en fait c'est pas ça qui prime dans l'histoire des Juifs. Ce qui prime dans l'histoire des Juifs, c'est l'émergence d'une tradition. Avec, on va se raconter quelque chose dans l'écrit, qu'en fait on n'a pas tué Moïse, mais que c'est notre grand homme, et il est juif, et en fait il s'est passé autre chose, c'est qu'on l'a tué, on s'est mélangé avec un autre peuple, on a écrit qu'on l'a pas tué, mais il y a une tradition orale, parce qu'il y a quelque chose qui s'est transmis de l'ordre de l'oralité, qu'on l'a tué, mais qu'on veut conserver son idée, et que il y a toute une lignée donc qui trace comme ça des Lévites. Il dit que les Lévites c'était les hommes de Moïse, ceux qui étaient très partisans de son idée monothéiste, puis les prophètes qui rappellent l'idée de Moïse, donc cette religion particulière née en Égypte, mais qui change petit à petit aussi, hein, parce que l'histoire influe sur qu'est-ce que c'est cette religion monothéiste, c'est pas tout à fait la même, puis les rabbins. Voilà, donc ça c'est la grande ligne, mais donc il faut commencer par le début. Pourquoi ils sont indociles? Pourquoi on a besoin de ça? Et c'est le départ, si on n'a pas ça, ça ne fonctionne pas.
Peut-être que je vais reprendre. Non, mais je ne sais pas arrêter de répondre à la question de pourquoi le peuple à la Ukraine. Peut-être que pour préciser l'objet de l'enquête,
mais c'est aussi le fait, comme vous venez de dire là, que ça dure. C'est-à-dire que ce peuple est né dans une expérience de la loi, comme sa loi. Cette expérience de la loi comme sa loi était liée à... il l'a vécu comme une élection. Il l'a vécu comme une élection. Or, qu'est-ce qu'une élection ? En fait, c'est quelque chose de culturellement, là aussi, très singulier. Les différentes cultures, dit Freud, généralement, se choisissent des dieux. La dynamique commune, c'est plutôt le fait de se donner des dieux, se choisir des dieux, dans le panthéon, aller vers. Mais qu'est-ce que c'est que cette culture où on part du fait que Dieu s'est choisi un peuple, hein? Donc qu'il y a un choix qui part de Dieu. Voilà, ça, de nouveau, c'est un élément de singularité qui est lié à le rapport du peuple à sa loi. Toute la question d'ailleurs étant de savoir si l'élection c'est une élection à la loi, hein, pour la loi. dans quel sens il faut prendre l'essence ou la constitution du peuple juif, hein. Est-ce qu'il faut partir de la loi, il faut partir de l'élection? Ça, c'est un point d'ailleurs qui a beaucoup occupé les auteurs que j'avais en tête en étudiant, hein, Rosenzweig, Léo Strauss. C'est à ce nœud de questions sur les juifs, l'élection, la loi que j'ai essayé de me rapporter. Bon. Et ce peuple dure, et il dure sans territoire et sans temple. Donc, l'expérience fondamentale, c'est bien l'expérience de Moïse, c'est vrai, mais c'est l'expérience de Moïse pour Freud, ça c'est très important. Je pense que l'intérêt de cette lecture athée, hein, de ce que sont les juifs, c'est d'avoir deux moments bien en tête. C'est ce moment au fond qu'on n'atteindra jamais, hein, le moment Akhenaton, Moïse, toute cette préhistoire, on va dire. Et puis le moment là historique, c'est pour ça que le moment historique tout à fait tangible, c'est Yohanan ben Zakkai, c'est l'exil, c'est la destruction du second temple, la fondation d'école. Et en fait, Freud, il a en fait ça. Il voit bien qu'il parle d'une expérience à partir d'éléments archéologiques extrêmement douteux. Hein, oui, en tout cas, c'était l'égyptologie de l'époque. Un petit peu, quand même. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu des lignes. Oui, tout à fait. Non, mais il y a la préhistoire sur laquelle il élabore ce qu'on peut interpréter comme une fable.
C'est un roman.
Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, disons que c'est un roman pour lequel il se donne ce qu'il pense être le maximum de garantie, de fiabilité en fonction de ce qu'il lit. Ok. Mais au fond, le moment qui l'intéresse, en réalité, historiquement, c'est le moment de la loi comme lieu d'existence du peuple. Et le moment de la loi comme espace d'existence du peuple, c'est Yavne, c'est l'école, c'est les rabbins. Exactement. Il y a un éloge des rabbins comme ayant produit l'expérience textuelle, en fait, qui permet que cette mémoire particulière du lien entre peuple, loi et élection, hein, se constitue, se perdure et surtout suffise. C'est ça, suffise à faire exister et à maintenir un collectif humain. Voilà. Donc il y a une hypothèse sur l'oral et l'écrit qui est très importante et sur la continuité d'une oralité maintenue dans une tradition écrite. Alors, je vais entrer juste un instant dans le détail de l'argument, parce que c'est un point qui est important, parce que là je vais à nouveau me référer à mes souvenirs ici. C'était on avait passé un moment, je me souviens, à commenter une Guémara, je pense. Là, c'était cette fameuse histoire de Rabbi Akiva de Moïse au fond de la salle.
Menachot,
je ne me souviens plus. Ouais. On en avait parlé, je me rappelle. Je t'en avais reparlé, je t'avais posé des questions, tu m'avais répondu. Bon. C'est très intéressant parce que je pense que c'est exactement ça que Freud avait en tête, à travers le personnage de Moïse. puisque Moïse, au fond de la salle, qui écoute la leçon de Rabbi Akiva, hein, je vous rappelle, et Rabbi Akiva qui est interrogé par ses élèves, et mais comment peux-tu avoir une telle profondeur dans le commentaire, d'où tires-tu de telles vérités sur la loi? C'est Moïse qui l'a entendu aussi. Et là, Moïse, perplexe, se retourne, hein, interroge Dieu, et Dieu confirme. Je me souviens bien, c'est comme ça. C'est pas tout à fait ça, vous me corrigez. Dieu confirme. Et l'idée est évidemment celle de ce que, en réalité, Moïse n'a pas donné la loi. Enfin, si je veux. C'est-à-dire que la loi, elle est fabriquée par l'expérience historique du commentaire, et elle est refaite, en fait, elle est refaite. Et c'est cette expérience vivante de la loi qui est, en fait, le fil sur lequel ce peuple va tenir dans la longue durée. Voilà, c'était ce que je voulais dire sur ce point-là. Peut-être, je reviens sur un aspect qui n'a pas été touché dans votre lecture, là. C'est la question de la raison pour laquelle c'est moderne. Hein, la raison pour laquelle c'est moderne.
Et qu'est-ce qui est moderne?
Non,
c'est moderne.
C'est moderne, cette forme d'expérience de la loi. En quoi c'est quelque chose qui a été légué pour moi, c'est-à-dire la politique moderne ne pourrait pas se penser sans ça. En fait, je crois que ce qui est ce qui est légué de plus précis, mais vous l'avez un peu dit, Anne, effectivement, quand vous avez touché la question de la justice, en fait, hein, et de la forme que prend la justice pour ce peuple à partir du moment où il fait cette expérience de la possession de sa loi, hein, du possessif. Alors, si les lois, si la loi est toujours en excès par rapport aux mœurs, hein, si la loi ne peut pas être ramenée à des mœurs, c'est ça, hein. Mais si en même temps il faut qu'il y ait des mœurs pour que s'ouvre, hein, une expérience qui les transcende, en fait, qui les dépasse, hein. C'était l'exemple du législateur de Rousseau, hein. Un bon législateur, c'est quelqu'un qui va travailler les mœurs, mais d'une manière déterminée, en les inclinant à se dire, bon, les pratiques qui sont les vôtres importent, hein, vous vivez de votre culture, votre culture et vos pratiques, vos usages ne sont pas insignifiants, mais quand vous les pratiquez, pensez, hein, à autre chose d'une certaine manière, pensez à ce que ce substrat ne suffit pas à décrire de la justice à laquelle vous aspirez. Hein. Donc, tenez sans doute par vos mœurs, mais faites en sorte que vos mœurs soient le tremplin d'une expérience plus haute que la simple répétition des usages. Alors ça, pour moi, ça c'est moderne. Vous voyez, c'est ça le legs. C'est ça le legs, et c'est pour ça que Rousseau est un quand il choisit Moïse, il élit Moïse parmi les figures des grands législateurs. Il a le choix, il y a une liste, hein, Lycurgue, Numa, Mahomet et Moïse. Pour moi, Moïse est celui qui lui sert le plus, en réalité, à forger cette idée-là. Une idée que le contrat social dans sa formalité ne suffit pas à résumer. Hein. Le contrat, c'est une belle mécanique, hein, c'est travailler à partir d'une tradition de droit naturel que Rousseau réélabore et exauce, c'est vrai, mais le contrat tout seul, un bon contrat du peuple avec lui-même, où chacun réfléchit en lui-même à la volonté générale ne se résout pas dans la volonté de tous, enfin bref, vous avez toute une théorie juridico-politique très, très, très élaborée dans Rousseau, mais ça suffit pas, il s'arrête, il dit mais en fait ça suffit pas si j'ai pas un peuple qui dans ses mœurs se dispose à ça, s'ouvre à ça. Voilà. Et c'est là que vient le grand législateur. Alors tous les commentateurs ont dit mais enfin il régresse là, il retombe à un niveau archaïque, à un niveau religieux, à un niveau... Mais non, il en a besoin pour que son contrat soit pas une pure fiction valant pour n'importe quelle entité abstraite, mais ne correspondant à aucun peuple réel. Hein? Rousseau espère que ça va correspondre à des peuples réels, aux Corses, aux Polonais, aux... Il a fait le service. Mais c'est dans Moïse, je pense, qu'il a trouvé l'illustration de ce législateur-là, qui éduque à la modernité, en fait. Voilà. Alors ça, c'est la raison pour laquelle c'est moderne. Au sens de l'idéal d'une auto-législation, en fait. Hein, une auto-législation. Et dans laquelle, ce qui est recherché, à travers les usages, les mœurs, l'obéissance mécanique répétitive, c'est l'accomplissement d'une justice qu'on n'a pas encore touchée. Une justice qui est au-delà de l'expérience qu'on fait actuellement de nos relations. Donc cette dimension-là, je pense qu'elle est très... elle est très bien décrite par Freud quand il qualifie le peuple juif de peuple qui, pour des raisons historiques déterminées, pour son échec, en fait, politique, alors, au politique au sens cette fois-ci banal du terme, au sens du pouvoir, n'a tenu que par le travail de sa loi, la relecture de sa loi, le tissage de cette expérience où Moïse revient sans cesse et est rempli en réalité par le commentaire actuel de ceux qui cherchent à vivre avec leur loi. C'était ça le sens du livre. Voilà, maintenant je vous laisse parler parce que ah oui, sur la, oui, sur le peuple à la nucrède. Oui, en fait, le peuple à la nucrède, c'est donc son indocilité, son c'est ce peuple. Pourquoi il a la nucrède? Il a la nucrède parce que, au fond, même dans ses usages, même dans son polissage, hein, il n'a rien perdu de sa capacité à dire « Non mais toutes ces lois ne sont pas vraiment pour moi. Voilà. » il n'a rien perdu de l'expérience qui l'a fait rejeter, en fait, rejeter tout ce qui risque de n'être que culture. C'est ça.
Là, il faut le redire, je pense.
Non, mais parce que vous avez beaucoup mis l'accent sur le fait que Moïse était un homme énergique et que ce peuple, et il était face à un peuple indocile. Vous avez entièrement raison, c'était ça, pour Freud, le point important, c'était de relever tout ce qui, dans le personnage de Moïse, relevait de l'irritation, hein, plus que de la douceur. Alors, il a écrit un autre texte sur Moïse, qui est un commentaire du Moïse de Michel-Ange, que vous trouvez dans à Rome, dans la, une église qui s'appelle Saint-Pierre au Lien. C'est une statue de Moïse très très belle, et donc Freud fait un commentaire, analyse ce que Michel-Ange a voulu mettre dans cette figure, et il fait un commentaire où en fait il met l'accent sur la crispation des doigts sur les tables qui vont tomber. Donc on est en réalité, selon Freud, ce qu'a voulu représenter Michel-Ange, c'est pas le Moïse qui revient, c'est celui des premières tables. Hein, c'est le moment où, en fait, de colère, il brise les tables. Et ça, pour Freud, je pense que c'est le bon Moïse. C'est-à-dire celui qui se dit « je vais leur imposer quelque chose qui est dur pour eux. » Qui est dur pour eux. Et voilà.
Et c'est à cause de sa colère que Moïse meurt aussi. Pourquoi tu ne vas pas
Alors,
c'est rien avec la colère, justement, cette disparition.
Moi, l'interprétation à laquelle j'étais resté, c'était le rocher. Non ? C'était le rocher.
C'est...
Ah, d'accord.
C'est à ça que je...
Oui, d'accord.
On parle de la colère.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Si je peux permettre, féliciter les éditeurs, je reposais qu'ils en parlaient très grossier, comme des Grecs. C'est-à-dire que dans la culture grecque, la culture libérale, tout est dans le verbe. Et le reste, il avait le cours sur la loi. Vous me dissertez, Socrate arraché, ça va être vrai, c'est l'interlocuteur, et il ne peut pas réussir. Mais dans le judaïsme, cette hégémonie du verbe n'est pas très marquée. C'est-à-dire dans le judaïsme, il y a trois piliers dans le monde. Il y a plus d'un qui est c'est pas du verbe, mais c'est considérablement structurant pour une existence commune. De même le rite, le fait que quand on me demande si les Israéliens sont religieux, vous m'arrêtez si j'ai dit ça, je dis il y a à peu près entre 12 et 15% qui vont à la synagogue le samedi matin, les jours de fête. Mais le soir du Seder chez les religieux, dans 85% des familles israéliennes, il y a un repas rituel. Ce qu'on y raconte, c'est pas forcément la Haggadah, mais il faut être là. Comme les cathos, race en voie de disparition en France, ont un repas de Noël, même s'ils n'ont pas piché les pieds à l'église, depuis 10 ans. Et enfin, quand un Israélien ou une Israélienne ont un petit garçon, dans pratiquement 100% des cas, ils le font circoncire. Alors, sont-ils religieux ou pas ? Bonne question. En fait, ils font des gestes. Et par ailleurs, le repas du Seder, à l'image du repas de Noël, c'est de l'affect, c'est de la relation. Et la relation n'est pas réductible à une logique. Admirablement dit par Montaigne parlant de la Boétie, c'est des clichés habituels, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ça, c'est pas un discours. Ça, c'est l'affirmation d'une menue tribu réduite à 2 hommes, fondée sur les affects. Or, surtout chez madame, j'ai entendu cliquer des rites et des affects tout au long des difficultés auxquelles se heurte le verbe. Il y a toujours, toutefois, le fait qu'on mange ensemble, etc. Le fait, toutefois, etc. Le fait qu'il y ait des gestes. Or, je pense que la Révolution française s'est shootée, halluciné au verbe. Je crois que c'est en 1791 que le citoyen, je crois que c'était Marat, a ordonné ou laissé, a favorisé le fait que l'on fasse une messe à la raison dans toutes les églises de Paris. Les gens de l'âge classique ont dit c'est formidable la raison, ça fait l'unanimité. Oui, mais c'est une unanimité de pierre. Il n'y a pas de débat. comme dit Don Juan à son serviteur général, scandalisé, à quoi je crois que 2 et 2 font 4. Ça, c'est de l'ultra dur. Et ça rassure. Donc, je pense que la différence entre le peuple juif et les autres peuples, c'est qu'ils donnent sans arrêt vie aux trois niveaux. À cause des rituels qui fabriquent de la solidarité familiale et qui fabriquent des mythes fondateurs. Un repas de Seder, ça transforme un petit Parisien en ancien esclave d'Égypte. C'est pas intellectuel, ça. C'est rituel, c'est affectif, c'est chaud, mais ça ne dit pas la vérité. Or, les Juifs sont contraints de mettre en œuvre ces trois piliers, alors que les autres peuples n'y sont que très médiocrement contraints. À mon avis, la mort du communisme, c'est qu'ils n'ont pas fabriqué de rite communiste. Les défilés sur la place Rouge, c'était comme au temps du Tsar. Résultat, ils sont redevenus comme au temps du Tsar. On ressemble plus à ces gestes qu'à ces déclarations. Donc, ça fait des années que je réfléchis à ça. Je suis professeur de gestion occidentale américain, Harvard, tout ce que vous voulez. Je me dis, ça marche pas. Ça marche pas. Ces gars-là, quand ça marche, c'est parce qu'il est né une tribu et des rites. Mais ils ne veulent pas se l'avouer. Excusez-moi de mon abondance.
Mais nous
je connais le livre de Moïse et non, je l'ai acheté aussi, je ne l'ai pas encore lu, je m'en excuse. Quelle place vous donnez au dernier mot de Freud, dernier mot, peut-être l'avant-dernière alinéa, quand il dit, je crois avoir expliqué ceci, ceci, cela, vous avez développé certains éléments, mais il dit, il y a quelque chose que je n'explique pas et qui est une énigme. Pourquoi il y a encore des Juifs? Et ça se termine là-dessus, et sa vie se termine aussi là-dessus, si je me trompe, s'il va mourir quelques mois plus tard. Quelle place vous donnez à cette idée d'énigme? Freud disant, c'est une énigme, la persistance du peuple juif. Je ne dis pas qu'il désigne comme énigme tout le reste. Et accessoirement, je dis accessoirement, parce qu'on en a déjà parlé, les considérations philologiques sur lesquelles il s'était appuyé à l'époque, en 1930, Nicolas l'a rappelé, c'était un philologue allemand, la grande école, etc., selon lesquels, en tripotant les voyelles, les consonnes, en ajoutant ceci et cela, on peut montrer que dans le livre de Hosée, il est question d'avoir tué Moïse. Okay. Mais le Céline en question était revenu là-dessus, en disant non, on n'est pas forcé de dire ceci et cela. Et j'ajoute, j'ai déjà dit, mais je l'ajoute, ce passage-là suscitait les sarcasmes d'un autre psychanalyste très connu, Lacan, qui traitait Totem et Tabou de pitrerie darwinienne. Ça, c'est pour nous faire rire aussi entre nous. Mais juste sur l'énigme, quelle place vous donnez à ce mot de la fin, l'énigme? Voilà, c'est ça ma question.
Il se tire une lame du bas dans le pied.
Peut-être.
Apparaît,
mais
il dit finalement, c'est un tissu de bêtises. Il m'a fait plaisir. Il tient compte de mes cohérences internes, mais certainement pas du jugé de Moïse. Ça, il dit ça, hein, qu'est-ce que...
Non, mais les mots, on peut les ressentir, c'est la, les avant, l'avant qui a voulu
avec
les
avant.
C'est
l'énigme.
C'est l'énigme. Reste.
Ouais. Exactement.
Ça ne change rien à votre regard. Je veux dire, mais quelle place Bruno Fassati donne-t-il à cette fin d'énigme?
Non, mais d'une certaine manière, le but du livre, c'était de la dissoudre, hein, mais il dit littéralement, j'ai apporté un éclairage sur la constitution du juif, mais sur sa persistance, vous avez raison, sur sa durée, sur sa capacité à persister, je reste sur une énigme.
Il dit peut-être un jour, d'autres, bien
voilà.
Autrement, mais je reste sur une énigme.
Oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il me paraît avoir une réalité tangible à partir de la Révolution française? Mais auparavant, politique, c'est du sort. On pourrait être fort. Et pourtant, c'est une sacrée politique. Notamment étrange.
Alors, sur cette question, je pensais à...
moi, ce que je me suis donné pour but, c'est d'éclairer un mystère de la politique moderne et post-révolutionnaire, tout à fait post-révolutionnaire, qui est le fait que le contrat social ne marche pas tout seul. C'est pour ça que le livre commence par Rousseau. Hein. Et donc c'est tout professeur de philosophie a buté sur ce moment-là. Dans Rousseau, il y a le contrat, puis au milieu du livre 2, il s'arrête et dit « Mais tout ce que je vous raconte est une expérience de pensée qui, pour historiquement se réaliser, a besoin d'un élément qui n'est pas dans le contrat, qui n'est pas un terme du contrat. » Et intervient Moïse. À ce moment-là, intervient le législateur. Donc, toute mon interrogation, c'était centrée sur la politique moderne, monsieur. Vous avez entièrement raison, mais avec l'idée que, pour que la politique moderne ait été possible, c'est qu'il a fallu que quelque chose se transmette qui rend la démocratie désirable. Vous voyez ? Qui rend la démocratie désirable.
Je dirais d'un mot, c'est parce qu'il y a une idolâtrie. C'est en fait de l'Occident, c'est l'idolâtrie de la raison. Ouais. Un peuple entier.
C'est pas mal quand même.
L'idolâtrie de la raison.
Bon, ça c'est un point sur la politique occidentale dans sa généralité. Moi, ce que je vous dis, c'est voilà, je partais de là. Je partais d'un problème lié à la cohérence de la politique moderne, à la cohérence de la politique moderne. Et là, le passage, en fait, cette difficulté dans la cohérence de la politique moderne, je trouve qu'elle s'éclaire mieux par la généalogie juive, on va dire, que par la généalogie grecque. C'était ça le. Maintenant, pour Lénine, vous avez raison. En fait, j'ai essayé. Le but du livre, c'est d'essayer, parce que c'est de lier la question de la durée à cette question de la constitution. C'est pour ça que je me suis concentré sur ce problème que j'ai fait vraiment là, cette fois-ci, émerger du texte de Freud, qui est le moment Yavne, le moment école, le moment Geistigkeit, en fait, parler comme Freud, c'est-à-dire le moment où la vie de l'esprit, du peuple, le singularise par rapport aux autres peuples. Freud dit, du fait de cet échec politique, du fait de la destruction du temple, du fait finalement d'une incapacité à fonder un empire ou à fonder un État, enfin, là je ne fais pas de différence, ce peuple a dû s'accrocher à sa loi et avait trouvé dans sa loi un rapport de l'oral et de l'écrit qui allait lui permettre de tenir sur la longue durée. Voilà. Alors, c'est en essayant de me concentrer sur ce rapport de l'oral et de l'écrit que j'ai essayé de résoudre l'énigme. Avec la conscience que c'est insuffisant, parce que Freud lui-même dit qu'il a trop peu d'éléments pour l'expliquer. Mais pourquoi l'oral et l'écrit ? Peut-être que c'est à ça que je. Bon, dans ma lecture du meurtre du père, dans ma lecture du meurtre de Moïse, j'accorde une grande importance aux Lévites. Les Lévites. Est-ce que les Lévites représentent dans le récit freudien ? Alors vous allez comprendre, c'est très simple, c'est ça le point. C'est que les Lévites, dans le récit que Freud fait, regrettent tout de suite. Et, dit-il, murmurent. Ils murmurent. C'est-à-dire, ils se disent que le peuple n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Et ils font persister la mémoire de l'idée du premier Moïse. Donc celui qui a été tué, celui, le grand prêtre d'Akhenaton, qui était le dépositaire de l'idée monothéiste. Ils se parlent entre eux, mais ils se parlent à voix basse. Exactement, parce qu'ils sont au milieu des autres. Ils ont tous commis le meurtre et il y a ce mur. La question de l'écriture va être la question de la fixation du récit officiel. Le récit officiel fixe que Moïse n'était pas égyptien, qu'il était juif, qu'il n'y en avait qu'un, qu'il n'y a jamais eu de meurtre. Ça, c'est le récit officiel, il est à l'écrit. D'accord ? Ça, Freud le dit. Ils ont fixé par écrit, ils datent le moment où il y a fixation par écrit. Mais il y a l'autre parole, ou l'autre récit, le récit de la mémoire de ce qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire, et surtout de la grandeur de l'idée dans sa pureté, à laquelle on n'a pas consenti, puisqu'on a tué, on a été un peuple à la nucrède désobéissant. Et donc, c'est cette collusion, c'est cette articulation de l'écrit officiel et de l'oral officieux, qui, dans, je pense, le récit freudien, justifie ou tisse, voilà, tisse la trame de la pratique de la loi ou de l'étude de la loi. Et c'est comme ça que j'entre dans la constitution de l'énigme. Vous voyez ?
Oui, Il faut mémoriser. Plus de donc c'est fait à partir de cette qui utilise ce qui sait du minerai, c'est tout à fait légitime. Hein. Non. Mais le texte de la Torah, c'est pas ça.
Non, bien sûr.
Moi, je veux bien que. Ou bien ça se fait dans le minerai, on va déplacer les voyages. Ça peut se faire. Ah, le poids, on peut faire des images, on peut faire beaucoup de choses. Mais la base,
elle reste.
Pour pas vers laquelle on revient, c'est l'exatoire. Il y a jamais question du silence, du délit, enfin, du murmure. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, je sens effectivement votre envie est un peu fou en vous écoutant, surtout. Je suis prêt d'exploiter les ouvertures que vous avez, qu'on vous a offertes. Regarde, mon fils, je suis comme vous. Hein, mais c'est en projetant ça que vous feriez votre chemin. ça m'embête un petit peu. Je répète, je n'ai pas lu le livre. Là, je suis toujours embarrassé. Parce que quels sont les outils que vous convoquez à ce moment-là pour pouvoir recoudre ce peu de Torah dont il est question chez vous, ce peu de Torah. Et donc, Jamy nous a dit qu'il en connaissait plus qu'il ne savait. Bon, avec votre idée que on peut la dissoudre. Donc, vous pouvez peut-être en dire plus là. Est-ce que c'est exclusivement en convoquant des catégories autres, je ne sais pas lesquelles,
Non, c'est... Voilà, c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Oui, oui.
Non,
tout à fait, ça n'est pas par une exégèse poussée, plus poussée de la Torah que j'avance dans cette direction. J'avance plutôt avec des outils propre à la tradition psychanalytique, oui, et à la philosophie politique. C'est comme ça que et j'exploite le texte de Freud. D'abord, je lis, j'ai voulu faire une lecture très très soigneuse du texte de Freud lui-même, réinscrit dans son œuvre, hein, dans ses textes, confrontés à Totem et Tabou, confrontés à d'autres textes de Freud. Voilà. Ça, c'est le matériau. Hein. Et vous avez entièrement raison, il y a une dimension de projection, ça c'est un peu peut-être excessif, en tout cas de forçage pour analyser le problème de la politique moderne. Voilà, le problème de la politique moderne, à travers l'expérience des Juifs.
Alors, voilà. Bien, monsieur Gaspari. Merci d'être
là. Juste avant. L'idée de peuple pour moi, c'est un autre point de départ. Hein. L'idée de peuple pour moi est marquée d'une
très grande ambiguïté, telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Il y a trois sens du mot peuple. Et là, je ne me réfère pas à la tradition, hein, tel que le terme est utilisé en philosophie politique, en pensée politique et dans la doxa, dans le discours courant. Il y a le peuple au sens de au sens ethnique, hein, l'origine, on va dire, le peuple comme justement ce peuple culturel, on va dire, l'ethnie. Il y a le peuple au sens du démos, d'accord, c'est-à-dire en fait dans le sillage de la philosophie politique, le peuple au sens de sa constitution juridique, hein, le peuple des démocraties. Le peuple des démocraties, c'est celui qui vote, c'est celui qui a une existence dans nos constitutions, c'est le dépositaire de la volonté constituante, de la, du pouvoir constituant, c'est une entité avec laquelle on réfléchit en philosophie politique. Ça a une très grande différence entre le démos et l'ethnie. Et puis, il y a la classe sociale, le petit peuple, la classe populaire, le peuple dépositaire, le peuple comme sous-groupe. Le peuple comme sous-groupe. On est constamment dans un usage ambivalent de ces trois termes, et on les fait intervenir dans le discours politique, souvent de façon indistincte. Moi, dans ce livre, j'ai essayé de dégager un quatrième sens du mot peuple, en fait, qui me permet de mieux distinguer les autres. Hein? Ce quatrième sens du mot peuple, c'est le possessif. Le possessif de la loi. D'accord? Ce qui, en fait, c'est ce qui se constitue dans le rapport à sa loi. Ce qui se constitue dans le rapport à sa loi.
Je suis pas sûr de comprendre à ce stade, mais vous n'êtes pas fini.
Oui. Est-ce que le possessif, ben, en fait, voilà, c'est que je ne peux dire peuple que si c'est pas seulement que j'ai une loi et un peuple, mais j'ai une loi qui ne correspond qu'à ce peuple, qui n'est acceptable que par ce peuple, qui lui convient. Qui lui convient. Et ça, ça me semble être un concept plus caché de la politique moderne et essentiel à son fonctionnement. Il n'est ni exprimé dans l'ethnée, ni exprimé dans le démos, ni exprimé dans la classe populaire. Et en fait, pour moi, il est plus important pour comprendre notre expérience politique. Ben, en tout cas, j'ai essayé là de le problématiser. Oui, oui, de le décrire. J'ai essayé de le décrire. Voyez.
Merci. Je me présente peut-être, comme je suis, c'est la première fois que je suis là, que je suis invitée. Merci de votre invitation. Donc, je suis Avishag Zafrani, je suis docteur en philosophie. J'enseigne cette année à l'Université Paris-Descartes la philosophie politique et morale, et puis aussi l'anthropologie, puisqu'on m'a donné ce cours, alors que je ne suis pas de formation anthropologue, mais justement, ça me permet de poser ma première question, parce que, en donnant des cours en anthropologie sur le concept de culture, justement, j'ai remarqué que chaque anthropologue avait une définition de la culture différente, qu'il n'y avait pas tellement de consensus sur ce concept-là. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir en quoi il n'y aurait pas de culture juive, hein, parce que précisément on a des anthropologues qui définissent la culture à partir des règles, à partir des normes, à partir des rites, à partir des structures de la parenté, évidemment. Et puis le dernier qui me plaît le plus, qui est plutôt un philosophe d'ailleurs, qui détermine une culture par sa production symbolique, comme Ernst Cassirer, par exemple. Et on pourrait très bien dire que le judaïsme a eu une forte production symbolique, précisément, qui a eu, dont toute la modernité a hérité également, la politique moderne notamment, que ce soit par le contrat et par l'alliance et des choses qu'on peut lier ensemble. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y aurait pas de culture juive qui aurait précisément pu être léguée à l'Occident et puis à la modernité. Et ma deuxième remarque, enfin j'ai beaucoup de remarques, mais je vais essayer d'être très synthétique parce que c'était vraiment très intéressant. Ce qui m'a beaucoup intéressée dans votre propos, c'est justement sur le possessif et la loi, c'est-à-dire sur la question de l'autonomie. Bon, donc clairement, l'autonomie, c'est un concept qui est extrêmement moderne, bon, avec Rousseau, mais notamment avec Kant, qui définit l'autonomie comme le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Donc dans cette configuration, les Juifs se sont donnés à eux-mêmes, par Moïse, leur propre loi. Il y a une autonomie du peuple de ce point de vue-là. Cependant, il me semble que cette autonomie, on la retrouve également chez les Grecs. Donc je voudrais savoir, vous, comment est-ce que vous distinguez exactement l'autonomie législative juive de l'autonomie législative grecque ? Moi aussi, je suis très intéressée de savoir ce qui distingue vraiment les Juifs et les Grecs, peut-être comme nous tous, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à le trouver, parce qu'à chaque fois que je vois quelque chose de spécifique chez les Juifs, si je cherche un peu, je peux le trouver chez les Grecs. Il y a peut-être un élément qui, dans le rapport à la temporalité, le rapport à l'histoire, qui différencie les Juifs et les Grecs, mais pour l'autonomie législative, le fait que le citoyen participe à l'élaboration de sa propre loi, ben là on peut retrouver un attachement à la loi, une autonomie législative. Tocqueville va le redire plus tard, donc c'est ce qui va unifier le peuple. Donc si je peux avoir votre perspective sur cette distinction entre les deux. Et puis le dernier point, c'est une question vraiment, alors là j'y pensais juste ce soir, je me demande, dans ce rapport au père que Freud a toujours analysé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé à la figure abrahamique et le rapport d'Abraham à son père ? Parce que finalement, le fait de détruire les idoles qui appartenaient au métier de son père, c'est pas un parricide concret, mais il y a quelque chose de symbolique, de détachement à son père, qui est aussi fondateur d'une culture, puisque Freud les définit à partir de cet événement. Donc là, c'est pas, Freud n'en parle pas, mais peut-être que vous... vous êtes interrogé également là-dessus. Voilà pour mes remarques.
Alors, en fait, vous avez répondu pour la première question. La question de la différence historique, c'est une autre manière de prendre l'autonomie. Si vous l'inscrivez dans une dynamique où la prophétie, en fait, est l'ouverture à l'histoire. Vous êtes dans une conception de l'autonomie qui est tout de même très, très particulière, parce qu'elle est liée à l'accomplissement d'un destin. Ouais. Hein. Elle est liée à une singularité dans les nations. Vous posiez au début la question âme et goy, et ce passage de l'Exode que vous avez cité, où les deux mots sont employés. Comment c'est ton âme, ce goy. Hein, c'est ça. C'est ton peuple, ce goy. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, bon, moi, ce que j'entends, c'est ton peuple, celui auquel donc tu as donné ta loi, ce collectif parmi les autres collectifs, en fait. La goy a le sens, si vous voulez, appropriable par d'autres nations. Mais c'est très important d'avoir choisi une expérience de l'autonomie comme singularisant un collectif parmi d'autres collectifs. Vous voyez ? Alors,
Ça, je pense que c'est non grec, ça. Enfin, je ne vois pas de peut-être que pourrait faire l'exercice.
Et le rapport au barbare, il y a une distinction. Il se distingue.
Oui, mais ça n'est pas un destin parmi les barbares. Vous comprenez?
Pour la notion de destin, je suis tout à fait d'accord. Enfin, d'accomplissement, puis ensuite d'activité, enfin, d'éléments messianiques, des propres judaïsmes, ça, on ne va pas le retrouver dans les...
Alors, le second point de distinction très important pour moi dans le livre, hein, celui sur lequel je mets l'accent dans le dernier chapitre, c'est la question esthétique. C'est la question esthétique. Oui, c'est la question esthétique. C'est la question, en fait, alors, esthétique que je reconduis à la question de l'épopée, hein, et de cette forme de récit qui est fondatrice pour les Grecs, hein, où se reconduit justement le mythe, hein, et un récit de soi qui passe par l'évocation d'un âge d'or, hein, d'une époque héroïque qu'il s'agit de faire durer. Ou de répéter dans l'expérience politique. Alors, je ne peux pas vous entrer dans le détail de la distinction, mais c'est très important parce que pour Freud, justement, le point essentiel, c'est que la Bible n'a rien d'un mythe, hein, et que Moïse n'est pas un héros. Moïse n'est pas un héros. Un mythe, oui, ça n'est pas du mythe. Ça n'est pas du mythe. Alors, en quel sens ce n'est pas du mythe? Voilà, je vais peut-être être plus... voici. Mythe, la définition que j'en donne et qui se reconduit dans l'épopée, c'est au fond un récit sur l'origine de la société elle-même. Un âge des héros, un âge d'or, c'est l'origine de la société elle-même. Il n'y a pas d'origine de la société chez les Juifs. Il y a l'acte de naissance du peuple, hein, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une cosmogonie, hein, une émergence du peuple à partir du monde. Alors, je sais, on va m'objecter, peut-être la tradition mystique, les récits sur la création, et ce qui, dans le judaïsme, peut s'approcher, hein, d'une mythologie. Mais d'abord, pour Freud, ça n'a pas d'existence, ça, hein, c'est pas ce judaïsme-là du tout qu'il a à faire, auquel il pense, hein, et je pense que c'est séparable du reste. C'est séparable du reste. Puis il y avait une deuxième question, excusez-moi, là je...
Oui, il y avait, enfin, j'ai une remarque sur la bouche en puits, et puis après je fais une remarque sur Abraham. Mais
ah oui, sur Abraham, j'ai pas de réponse. Pourquoi il a choisi Moïse et pas Abraham?
Je trouve qu'on occulte beaucoup Abraham dans les sur les questions de politique juive. Enfin, c'est fondateur. Il me semble que c'est fondateur, et même maintenant je travaille un peu sur Walter Benjamin, la crainte majeure de Walter Benjamin, c'est le fascisme.
Donc l'esthétisation du politique. Je pense que vraiment un acte fondateur qui est de briser les idoles, et donc le gouvernement par les images, c'est quelque chose d'extrêmement important qui peut être un élément de politique juive, en diaspora ou non d'ailleurs, un élément substantiel.
Enfin, il en déplore, il y en a qui s'occupent beaucoup d'Abraham, c'est des rilades.
Oui,
il
faut appeler
Abraham l'autre.
Je crois que vous allez expliquer de pourquoi Moïse est Abraham. C'est que Abraham était d'une telle bonté qu'il était incapable d'avoir mis l'état de dureté que le chef de l'Ouvre des événements. C'est Isaac qui a amené ce rôle. Il a parlé de la. Et le troisième, c'est pour ça que les juifs descendent de
l'écriture. C'est sur la question de l'écriture.
Vous savez qu'il y ait la pensée de Rahm, la rivière des âmes.
Alors, une question de Nicolas. Je vais décoincer. J'avais plusieurs remarques, mais je dois dire que je suis toujours mal à l'aise quand on. Mais c'est sans doute le fruit de mes lectures actuelles, quand on assimile les Juifs à la modernité politique, une réflexion sur la modernité politique définie comme autonomie ou comme sujet, parce que c'est parfois vu en mauvaise part par certains grands philosophes, que je ne nommerai pas dans cette enceinte. Mais d'autre part, est-ce que... Alors, il y a aussi le fait qu'une chose m'a frappé, c'est vrai... dans votre livre et dans ce que vous avez dit, c'est que pour Freud, on l'a rappelé, et pour Freud lui-même, il s'agissait d'un roman, c'est-à-dire que cette lecture athée de la Torah, en fait, ou de l'expérience juive, était considérée par lui comme un roman, au même titre que Thomas Mann, à la même époque, écrivait sur l'histoire de Joseph, ou Oscar Goldberg fantasmait sur le passé araméen, ou les Cananéens réinventaient un juif moyen-oriental, etc. Donc c'est assez étrange que finalement toutes ces reconstructions qui se veulent appuyées par une science très douteuse ou datée, donc de même que le totem et tabou me paraît extrêmement daté comme anthropologie, soient qualifiées de romans. Alors je sais pas du coup quel statut vous donnez à cette parole, puisqu'au fond on a bien l'impression en lisant Moïse que le vrai Moïse, de l'homme Moïse et le monothéisme, c'est Freud lui-même qui va remplacer au fond la Torah par le complexe d'Oedipe, au fond la vérité d'eux, au sens hegelien, c'est peut-être la psychanalyse dans ce livre. Là je ne sais pas trop ce que vous en faites. Et puis une dernière remarque sur la modernité politique. Il y a eu un autre modèle de modernité politique hein, qui ne se limite pas à Rousseau et à l'héritage révolutionnaire à ce sujet. D'ailleurs, je crois qu'il faut quand même signaler qu'il y a dans le rousseauisme révolutionnaire lui-même, il y a aussi une exploitation très curieuse de l'image de Moïse chez Junius Frey, je ne sais pas si ce nom dit quelque chose, qui a écrit un Moïse législateur assez rousseauiste, dont Junius Frey venait du judaïsme par le franquisme. Donc c'est assez intéressant de voir cette réexploitation. Mais disons qu'il y a un autre modèle qui interroge celui que vous mettez en place. Oui, avec les dantonistes. Mais il y a un autre modèle, c'est celui de Montesquieu, qui lui, justement, au contraire, dans la distinction entre les mœurs et le gouvernement, parle de mœurs politiques. Il y a les mœurs démocratiques, les mœurs, il distingue donc. Et c'est aussi un des fondateurs de la modernité politique. Alors, je ne sais pas comment vous ajustez les deux modèles.
Alors, d'abord, je repense un peu le premier point sur le roman. En fait, c'est très...
C'était le deuxième, mais bon, c'est pas... le premier, c'était l'inquiétude d'assimiler les Juifs à la modernité politique.
Oui, ça. Non, mais je ne les assimile pas. Mon point n'est pas de les assimiler à la modernité politique. Et c'est de dire... que pour avoir sur la modernité politique un point de vue suffisamment aigu, c'est-à-dire en fait pour en voir aussi les difficultés, hein, le fait de mobiliser l'héritage juif est éclairant. Voilà, c'est ça. Je ne dis pas que les Juifs sont... je l'ai dit ailleurs, ça. En fait, je l'ai dit dans un livre ultérieur, que les Juifs sont plus modernes que les modernes ou sont à l'avant-garde de la modernité. C'est... Mais dans ce livre-là, c'est pas ça le point. Le point, c'est d'utiliser un récit juif pour, au contraire, peut-être toucher une difficulté qu'a la politique moderne à se définir elle-même.
Alors, justement, ça m'amène à la deuxième question. Pourquoi... Enfin, je passe à la troisième. Après, je reviendrai sur Junius Frey. Mais... J'ai cité Rousseau, je pars de Rousseau, je fais une lecture du contrat social et je m'arrête sur ce problème du législateur dans le contrat social. En fait, en réalité, j'ai pas pu être précis là sur parce que c'est difficile d'entrer dans le détail, mais en réalité, j'ai en tête le diptyque Montesquieu-Rousseau. Et vous avez raison de citer Montesquieu, parce que ce que j'ai en tête, en réalité, c'est le fait que le formalisme du contrat, hein, le juridisme du contrat, et du coup la politique révolutionnaire, en tant qu'elle accentue ce que monsieur appelait l'hallucination de la raison, hein, est compensé par la figure du législateur, hein, que la figure du législateur est une espèce de réticence de Rousseau, en fait, hein, et qu'elle n'est pas sans lien avec la conscience sociologique, proto-sociologique, hein, qu'on trouve chez Montesquieu et qu'on trouvera exaucée chez Durkheim quand il lira Montesquieu et Rousseau et qu'il donnera sa préférence à Montesquieu, c'est l'idée que je soulignais tout à l'heure, le contrat, ça ne peut réellement marcher que s'il y a un travail dans les mœurs et sur les mœurs. Et que ce travail dans les mœurs et sur les mœurs, il suppose qu'on parle de société réglée de l'intérieur d'elle-même, mais la question étant de savoir comment, à partir de ces règles internes, une expérience de l'universel, de la loi, leur est accessible. Voilà. Vous voyez ? Donc, en réalité, j'ai cette image complexe problématique de la modernité. Hein. Je ne dis pas que c'est gagné du tout, au contraire. Et est-ce que la généalogie freudienne me permet de faire, c'est de montrer que c'est pas gagné. Voilà. Donc ça, c'est sur le roman. C'est très important, en fait, pour moi, cette histoire de roman. C'est un roman. Etc. Le sous-titre de mon livre, c'est La vérité historique, selon Freud. Freud dit, dans le livre, qu'il a inventé un seul concept à la fin de sa vie, dans ce livre. C'est le concept de vérité historique, qu'il distingue de la Bible d'un côté, donc la fiction pieuse, Fromme Dichtung, fiction pieuse d'un côté, de la vérité matérielle de l'autre. Donc la vérité historique, c'est pas la vérité matérielle. C'est-à-dire, en fait, c'est pas évidemment la fiction biblique, qui est pour lui une fiction. Dit, je cherche dans ce livre la vérité historique. Et la vérité historique, c'est pas simplement ce que pourraient trouver les savants objectifs qui enquêteraient à l'aide des sources, des documents, à l'aide de tout instrument scientifique possible, qui enquêterait sur ce qui s'est vraiment passé. Donc je ne vais pas chercher, c'est là où effectivement votre question du roman est juste, je ne vais pas chercher ce qui s'est vraiment passé, même s'il y a un moment en fait où il se prononce sur ce qui, selon lui, s'est vraiment passé. Je vais chercher ce qui s'est passé en réalité dans la tête des gens. C'est ça. Ce qui s'est passé dans leur tête pendant toute cette histoire. Et ce qui s'est progressivement passé. Alors, la vérité historique, par rapport à la vérité matérielle, qu'est-ce que c'est ? La vérité matérielle, c'est le savant qui se tourne vers le passé et qui, à l'aide d'outils, le carbone 14 par exemple, ou autre, hein, va essayer d'attester ce qui s'est réellement passé. Donc, le cheminement de recherche de la vérité matérielle, c'est le savant qui se retourne et qui tente de marcher vers le passé pour aller chercher. La vérité historique, c'est le contraire, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est ce qui, d'un choc, d'un événement, le meurtre du père, d'une série même d'événements, entre dans le présent. Ce qui fait le chemin vers les acteurs, et donc vers les juifs d'aujourd'hui. C'est pour ça que la question se termine effectivement sur une énigme. L'énigme, c'est comment ça leur est parvenu, tout ça, en fait. En fait, l'énigme, c'est la mémoire. La vérité historique, ça n'est rien d'autre que la mémoire se faisant. Et donc, effectivement, vous avez raison, ça, ça peut être nommé comme un roman du point de vue de l'écriture freudienne. Parce que il sait qu'il ne fait pas de la science, au sens de la science historique, c'est-à-dire de la recherche de la vérité matérielle. Par contre, il fait de l'analyse de la mémoire, oui. Ça, incontestablement, il essaye de faire une analyse de la mémoire collective des juifs. Non, esthétique, je répondais tout à l'heure, justement, je répondais tout à l'heure sur les Grecs. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est l'opération freudienne sur le récit. L'esthétique, au contraire, le fait de lier esthétique et politique, c'est ce qui relève du mythe, en fait, ce qui relève du mythe, et qui est plutôt du côté grec. Mais là, sur la question du roman, je voulais vous répondre ça. Alors, sur Julius Frey, c'est un personnage qui me fascine complètement, bien sûr, c'est un franquiste. Bon. D'abord, ce que je dirais, c'est que si c'est vraiment un franquiste, il hérite la mystique juive. Mystique.
Il était converti au catholicisme.
Oui, oui, en plus, il fait partie des franquistes qui ont choisi la conversion. Hein. Et donc, alors, en fait, il n'entre pas rigoureusement dans mon récit, puisque mon récit, c'est le récit qui s'adosse plutôt à la tradition rabbinique, en fait. Hein. Si, vous voyez ?
Oui, parce que je pense que vous intitulez.
Dans les politiques des autres, sous la contrainte de l'histoire, mais je me permets de caractériser deux définitions de la politique juive, pour le coup. Il y en a une, d'ailleurs je sollicite la page exacte, parce que je le répète, mais je ne l'ai jamais lu. C'est le Schlar, c'est le nom de son œuvre, publié au XVIIe siècle, qui dit « L'état idéal est contenu dans le signe du mot Mishkan ». Mishkan, c'est le tabernacle du désert, et ces quatre lettres désignent les ingrédients indispensables à la survie d'un peuple. M comme Meller, Shin comme Shofet, le juge, Kaf comme Kohen, le prêtre, et N comme Navi, le prophète. Le Meller qui s'occupe des ordures ménagères et des priorités au carrefour. Le Kohen fait la justice. Le Kohen gère la permanence. Et le prophète dit où on va comme ça. Tout citoyen revendique ces quatre fonctions.
Où va-t-on?
Ou peut-être où devrions-nous aller? Où est-ce que Dieu vous demande d'aller? Mais aucun des trois précédents ne fait ça. Lui, il fait son boulot. Deuxième remarque. Il y a dans la prière du matin, dite par conséquent par des millions de juifs tous les jours, un résumé de la bonne vie, ce qui est traduit par la formule suivante. Voici les choses dont l'homme goûte les fruits dans ce monde et le capital productif dans le monde qui vient. Donc nous avons là un idéal d'éternité, une sorte de mythe du bien absolu. Regardons cette liste. Il n'y a pas un seul mot de pouvoir public. Tout concerne des comportements privés. Ça commence par respecter son père et sa mère, aimer son prochain,
2000 trasadim, aller au Beth Amidrash matin et soir, quand je dis aussi, accompagner les morts dans leur dernière demeure, donner la fiancée, c'est des vertus, c'est des béales de Boy Scout. Mais il n'est absolument pas question d'un peu de pouvoir public s'occupant de ces différentes questions. Or, c'est l'alpha et l'oméga de la conquête de la vie éternelle. Je dis souvent à mes jeunes interlocuteurs, bien sûr que mon âme est éternelle. Je mourrai comme tous les êtres vivants. Mais quand je vois mes disciples, mes petits-enfants, faire comme moi, mettre des petits lits, étudier et observer le Shabbat, c'est ça mon éternité. Je suis sûr que ça va se perpétuer. Il n'y a pas de politique à temps. La politique, c'est une invention grecque, c'est une invention de Jean-Jacques Rousseau, c'est une invention de la politique moderne. Mais quand on observe tout ça, c'est une société, il y a quelques bureaucrates qui règlent les horaires de chemin de fer, mais c'est pas vraiment sérieux. Ce qui est sérieux, c'est de s'occuper de son prochain.
Juste, Rav, est-ce que vous avez une proposition de réponse sur les questions, aux questions d'Avishak Zafrani, notamment sur la culture juive, vu que Bruno Carpentier a répondu en vous citant, autant aller à la source même.
Il a répondu il y a 20 ans, donc. Le téléphone n'a pas sonné.
Donc, je voudrais peut-être faire une, peut-être deux remarques. D'abord, je voulais rapporter un midrash qui est assez connu, mais qui a peut-être quelque chose à voir avec cette pérennité dont on parle, cette durée. À la fin de sa vie, Moshe a écrit un Sefer Torah, c'est-à-dire il a rédigé tout ce qu'Hachem lui avait donné comme enseignement, et il a confié ce Sefer Torah à la tribu de Lévi, qui était sa tribu à lui aussi, pas parce que c'était la sienne, mais parce que c'était les Lévi, parce qu'il faut savoir que Lévi ou Cohen, on les présente comme des prêtres, mais l'essentiel du travail d'un Cohen, c'était l'enseignement. Parce qu'un Cohen, il travaillait 15 jours par an. Il y avait 24 groupes de Kohanim sur toute l'année, donc il travaillait 15 jours par an, sauf les jours où tout le monde était sur le pont, mais en fait, en général, donc, qu'est-ce qu'il faisait tout le reste du temps? Alors, il y avait le back-office, évidemment, mais essentiellement, sa fonction, c'était d'enseigner. Donc, il a confié à la tribu de Lévi le Sefer Torah. Et il y a eu une révolution. Toutes les autres tribus se sont révoltées. Ils ont dit, il n'est pas question que tu confies le Sefer Torah à une seule tribu. Nous aussi, on veut avoir un Sefer Torah. Et donc, il a dû réécrire un Sefer Torah pour chacune des tribus. De quoi il s'agit? Évidemment que la tribu de Lévi n'aurait pas pu dire ben la Torah ne nous concerne que nous. C'est toujours écrit Bnei Israël, c'est pas marqué toujours Bnei Lévi, donc ça concernait tout le monde. Seulement, ce qui se serait passé, enfin, en tout cas ce que craignaient les autres, c'est que la tribu de Lévi étudie la Torah et développe la Torah orale à partir de cette Torah, et à partir de cette Torah orale fixe la loi, et qu'à ce moment-là, les Lévim, les Kohanim viennent et disent, comme ça se passe très souvent ailleurs, les prêtres disent, voilà ce que vous devez faire. Il dit, il n'est pas question, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Tout le monde veut être partie prenante dans l'élaboration de la Torah orale, dans la fixation, à partir de cette Torah orale, de la façon de se comporter, de ce qui est la loi. Donc il y a une loi qui, d'ailleurs, ce qui est important, c'est que cette loi n'est pas une loi unique. Jusqu'à l'époque, jusqu'à la Renaissance en gros, la loi n'était pas fixée de façon unique pour tout le monde. Le rabbin de Paris, il pouvait très bien décider différemment du rabbin d'Orléans. Et même on a Rabbi Noutam, qui est le petit-fils de Rachi, qui décide différemment de son grand-père. Si vous voulez, il n'y a pas seulement cette question dont on parle beaucoup aujourd'hui de biodiversité, mais de diversité en général. C'est aussi une des questions que j'avais pendant très longtemps, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'unification pourquoi est-ce qu'on a gardé la structure tribale dans le clan d'Israël? Une fois qu'on est arrivé en Eretz Israël, pourquoi il fallait garder la structure tribale? C'est pour garder la diversité, en fait. C'est pour garder la diversité qui... Et quand on ouvre le Talmud, on voit bien qu'il n'y a que de la diversité. D'accord? Il n'y a pas du tout cette idée de il faut unifier les choses. Et donc, c'est ça, en fait, qui le rend vivant. C'est un corps vivant. Et c'est ça qu'il faut absolument préserver. Et je pense que c'est ça, quand on dit que c'est sa loi... C'est pas une loi qui est adéquate pour moi, qui se trouve de façon miraculeuse, c'est ma loi. C'est la loi que les Bnei Israël ont faite au fur et à mesure et qu'ils continuent de faire en permanence. Et je crois que c'est ça la durée du... C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de fabriquer sa loi. On est un peuple à partir d'une loi. Mais c'est une loi que nous faisons en permanence. C'est une remarque. Il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la notion de peuple... Je crois que on peut avoir la notion de peuple telle que la Torah le comprend seulement à partir de l'esclavage. Parce que l'esclavage, ça a enlevé toutes les mœurs, etc. Alors il y a eu des mœurs qui sont venues de survie, en fait, certains comportements que les Bnei Israël ont eus, mais vous savez, quand on est en esclavage, il n'y a pas tellement de collectifs. Les gens, ils cherchent leur souffle ou leur morceau de pain et donc, au moment de la sortie d'Égypte, Hachem a demandé, il a dit à Moshe, demande aux Bnei Israël, dans le texte c'est marqué qu'une femme emprunte auprès de sa voisine des ustensiles en or, en argent, etc. C'est de l'or et de l'argent avec lesquels les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils n'ont jamais rendu d'ailleurs. C'est un petit problème sur lequel il faudrait une fois parler. Mais bon, ça a été soulevé. Les Égyptiens se sont adressés, dit la Gemara, au temps d'Alexandre. Ils ont voulu récupérer ça, ça n'a pas marché. Bon, c'est en passant. Mais le texte porte le mot Reuta, ça veut dire Réa, c'est-à-dire mon prochain. Elle doit qu'une femme emprunte auprès de sa prochaine, de sa voisine, en fait, égyptienne. Et le Gaon de Vilna dit que nulle part dans la Torah, le mot Réa ou Reuta peut concerner un idolâtre. Et par conséquent, ce texte ne dit pas ici qu'il faut emprunter ces ustensiles d'or et d'argent, etc., directement auprès des Égyptiens. Mais je crois qu'il faut l'entendre de la manière suivante. Ce qu'Hachem a voulu, c'est qu'il y ait un climat de relations. Il fallait fabriquer des relations entre ces gens qui n'en avaient pas. Donc Hachem a demandé emprunter. Et puis vous allez emprunter et ça va faire un certain climat. Et du coup, à ce moment-là, la Torah elle-même dit que les Égyptiens, ils appréciaient Moshe. Ils savaient très bien que c'est Paro qui les a mis dans la panade à ce moment-là, et que c'était pas Moshe. Et donc, il y avait un mouvement, en quelque sorte, d'appréciation des Bnei Israël. Et donc, quand ils ont vu que les Bnei Israël fabriquaient des relations agréables, alors les Égyptiens ont demandé à en être aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont donné à ce moment-là. On a eu, mais on n'est pas allé les chercher. C'est eux qui ont demandé à participer aussi à cette socialisation, à cette ambiance en quelque sorte. Mais, et donc, ça manquait, il a fallu, pour pouvoir sortir d'Égypte, il fallait avoir ce minimum-là, parce que quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas de peuple encore. Il n'y a pas de peuple qui sort d'Égypte. C'est une masse qui sort, et la tradition, elle est que nous ne sommes devenus un peuple qu'au pied du Sinaï, qu'au moment où on reçoit la Torah. Et bon, alors, il y a cette notion, et avec ce que je vous ai dit du Midrash, c'est-à-dire que pour être un peuple, le peuple juif, c'est le peuple qui fabrique la Torah orale. C'était ça l'enjeu. L'enjeu n'a jamais été pour les Bnei Israël la Torah écrite. Ça, ils l'ont toujours accepté. Ce qu'ils n'ont pas accepté, au Sinaï, on raconte qu'on a dû leur imposer quelque chose, c'était la Torah orale. Ils ne voulaient pas la loi orale. Ils ne voulaient pas ce travail permanent, il faut sans arrêt se remettre en question, etc., et travailler sans arrêt, ça ils ne voulaient pas. Là, à cela, ils ont été contraints. Ça a duré jusqu'à l'époque de Pourim, où à ce moment-là, ils l'ont accepté sans contrainte. Mais c'était ça l'idée. C'était cette Torah-là que les Bnei Israël ne voulaient pas accepter. Mais pour construire le peuple, il a fallu en passer par l'esclavage. Il a fallu, si vous voulez, à ce qu'il n'y ait pas de mœurs réellement. D'accord ? Quand on dit, ce peuple, il s'est construit sans mœurs réelles. Parce que le Rambam écrit que en Égypte, on a tout oublié de l'enseignement d'Abraham. À peu près tout. Kimat, dit Rambam. Pratiquement tout. Alors la tribu de Lévi avait encore des restes, mais les autres, ils ont complètement oublié. Abraham, c'est la première naissance du peuple juif, c'est sûr, mais ça a été complètement oublié et d'une certaine manière retrouvé. C'est-à-dire que quand ils ont reçu la Torah, à ce moment-là, ils se sont rendus compte à... Ça ressemble à quelque chose qu'ils avaient quelque part dans leur conscience ou dans leur mémoire. Hein, ça ressemble à cet enseignement qu'un jour on nous a dit il y a longtemps, etc. Et donc, du coup, on a récupéré les patriarches, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans... J'ai pas lu le bouquin de Freud, mais j'ai lu l'Yerushalmi et j'ai lu le Karsanti. Donc, c'est comme ça que... Je n'ai pas pensé que c'était nécessaire de lire le Freud. Ça ne m'intéressait pas. Mais c'est vrai que il est toujours presque au bon endroit, mais il invente comme il faut absolument que ça passe par son système de meurtre, etc. Il ne peut pas penser que Moshe soit à la fois un Égyptien et un Juif. Ça, il ne pense pas. Non, il faut que ce soit deux, il faut en tuer un. Deux. C'est sûr que les Juifs qui sont sortis d'Égypte étaient les Égyptiens. Ça faisait 210 ans qu'ils étaient esclaves en Égypte. Qu'est-ce qu'ils pouvaient être ? Ils étaient Égyptiens. C'était Égyptiens Juifs, quoi. D'accord, probablement qu'ils avaient peut-être un système de parenté différent des Égyptiens etc. Mais bon, c'était des gens très marqués Égyptiens. Et Moshe, il était pendant 20 ans prince héritier en Égypte. Et le Mesher Chochma, il explique que pourquoi ça s'est passé en Égypte, parce que l'Égypte étant la civilisation la plus avancée, il fallait que les Juifs, quand ils sortent, prennent tout cet enseignement égyptien, etc. Et ça leur a fait un peu de problème, puisque, en tout cas, le ciel égyptien, ils n'arrivaient pas à s'en défaire. Il a fallu, dit le Midrash, qu'Hachem ouvre le ciel pour qu'il voit qu'il n'y avait rien de tout ce que les Égyptiens disaient qu'il y avait dans le ciel. Bon, c'est une révolution au moins aussi difficile que la copernicienne, je veux dire, tout à coup une histoire, c'est vrai que bon, nous on vit tous avec Newton, etc., c'est évident qu'il y a une attraction hein, sur R carré, etc., tout ça c'est clair et net, qui comprend tout ça. Avant c'était beaucoup plus facile, vous aviez des sphères qui roulaient les unes sur les autres, ça on comprenait, on pouvait toucher ça. Mais après, tout à coup, maintenant, il faut penser à des choses qui... L'attraction, la distance, c'est des choses... Mais eux aussi, si vous voulez, c'était par rapport aux réponses égyptiennes, quand tu demandais à un juif, tu sais comment ça fonctionne. Oh, ça, c'est Hachem. Et là, ça, c'est aussi Hachem. Ça, c'est aussi Hachem. L'Égyptien leur dit, ça, c'est ce Dieu-là, ça, c'est ce Dieu-là, ça, c'est la science. Ça, on peut décrire les choses sérieusement, mais sinon, on ne savait pas très bien quoi dire. Donc, à la limite, cette absence de culture, je pense que c'est la raison pour laquelle on passe par la case esclavage, en réalité. Et donc, ça ne s'est jamais fait sous forme d'une culture, en quelque sorte, puisque dès le départ, ça part avec la Torah. Dès le départ, ce qu'on a implanté, en quelque sorte, c'est de la Torah. Et c'est ça... C'est probablement vrai qu'il n'y a pas de musique juive, Wagner avait raison, malheureusement, et d'autres, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de... spécifiquement juif, je veux dire, enfin, ou bien je ne les connais pas, je sais pas. Mais bon, voilà, je pense que ce que je voulais dire. Ensuite, effectivement, vous avez raison que chez nous, le récit est... À l'inverse d'un récit du type épopée, puisque le jour du récit, c'est-à-dire le soir du Seder, qu'est-ce qu'on raconte ? On était esclaves, on était idolâtres, etc. Il n'y a pas du tout de héros et de... D'accord, on raconte nos faiblesses en quelque sorte, et on raconte qu'on n'y est pour rien, que c'est Hachem qui nous a pris, qu'il a pris à... J'ai pris Abraham, je l'ai baladé ici, je l'ai amené là, je lui ai donné Yitzhak, etc. C'est même des fois gênant parce qu'on a l'impression que des personnages comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. n'ont absolument aucune épaisseur psychologique. Quand vous lisez la Haggadah, ils ont été manipulés, quoi. On voit pas du tout l'épaisseur. On voit pas. On sait bien qu'il y avait de l'épaisseur, mais en tout cas dans le récit, le rédacteur de la Haggadah, il voulait pas du tout faire apparaître ça. Il voulait absolument que tout apparaisse comme l'œuvre d'Hachem directement. Justement, pas d'intermédiaire, pas de mention de Moshe, pas de mention de personne. Quoi.
Voilà. Merci beaucoup.
Il y a quand même une opinion qui dit que les gens ont accepté la loi, peut-être sous la contrainte, en tous les cas. Non, même la loi. Mais de la loi. Mais, alors, la question c'est, et ils ont accepté la loi orale dans le livre d'Esther. Alors, c'est.
Ils l'ont réaccepté, c'est marqué.
Oui, mais ce qu'ils ont réaccepté, c'est justement, ce serait la loi orale qui s'ajouterait, et du coup, c'est la Torah dans sa totalité qui est acceptée.
Non, mais eux, là-bas, ils ont accepté, ils n'ont pas accepté le. Le Yoshua, Shoftim et Mia, ils ont conduit à accepter la Torah, c'était les cinq livres de Moshe.
Oui.
Il y a pas de, c'est ça la Torah qu'ils ont accepté.
Oui.
Après, ça, le reste, c'est dans le Tanakh et c'est bien le canon biblique, vous avez raison, ouais. Mais c'est pas ça qu'ils ont accepté. Donc, au Sinaï, il n'y avait pas autre chose que ce que Moshe a enseigné.
Non, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas la Torah orale non plus.
Cette forme-là, ils ont accepté, ils ont dit, on est prêt à accepter tout ce que tu nous donneras. Qu'est-ce qui a été donné directement par Hachem? La Torah écrite qui a été donnée telle quelle par Hachem. Le reste, c'est pas les prophètes, etc. D'ailleurs, même la prophétie, c'est moins important que le travail des Chachamim, des sages, sur le texte de la Torah orale. Nous, on considère que Chacham adif minavi. Un Chacham, c'est plus qu'un prophète. Les sages, on n'est pas descendu, on a monté, si vous voulez. Donc, à la fin de la prophétie, à la fin du premier temple, c'est la fin de la prophétie, mais ce n'est pas du tout qu'on a dégringolé de quoi que ce soit. On est passé à une autre époque, dont les Chachamim eux-mêmes, c'est eux qui disent sur eux-mêmes, que c'est mieux que la prophétie. Oui.
L'image de la montagne retournée autour du peuple hébreu en disant vous acceptez que là, vous avez commencé, peut-être corriger. Parce que ce qui devait attendre dans le temps dessus, ce n'était pas une montagne. C'était un chaudron. Qu'a dit
oui, ça veut dire... clair que ça veut dire que vous avez un horizon tombé.
C'est-à-dire que s'il y a de l'histoire, c'est parti à l'histoire. C'est-à-dire que sinon, il se serait lancé un dimanche.
Allez.
Juste, il y a quelque chose. Si on revient à l'actuel et à la question principale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la politique? Et ça rejoint l'idée, vraiment la dichotomie entre culture, les juifs n'ont pas de culture, ça veut dire qu'ils vont passer leur vie, qu'ils vont accepter de passer leur vie à travailler la loi. Donc Freud, il touche un peu ça avec la dichotomie nation et peuple. C'est-à-dire, en fait, il dit personne ne veut le faire a priori, donc... ce qui pose, et lui, pour expliquer que les juifs l'ont fait... Il va passer par, comme vous dites, des choses un peu hallucinantes, mais en tout cas, ce à quoi il va arriver, c'est qu'ils y sont contraints. En fait, s'ils ne le font pas, ils meurent ou ils deviennent fous. Ils deviennent psychotiques s'ils ne le font pas, parce qu'ils ne veulent pas se rappeler le meurtre. Donc, s'ils ne veulent pas s'en rappeler, donc ils sont obligés de faire ça. Donc, ce à quoi il arrive par quelque chose d'amusant et passionnant, comme il le raconte, et effectivement, pas historique, enfin, peu importe. Mais il arrive à l'idée, s'ils le font, c'est par contrainte. une contrainte, ils le font par pure contrainte, et ils vont même ne jamais faire autre chose, en fait. Et donc, si c'est ça la définition de la politique, ça, on va pas. On trouve peu des peuples qui veulent faire ça. Ou on trouve pas. Ou alors qu'est-ce qui fait. Enfin.
En fait, peut-être qu'il y a une. Pour revenir sur le point de départ. C'est pas que c'est ça la politique. C'est. En fait. Ce n'est que si cette expérience limite
est touchée,
que on pourra parler en général de politique. Voilà. Parce que la politique, vous l'avez très bien dit, effectivement, la politique c'est plutôt les autres, au sens
vous avez entièrement raison. C'est ce que cherchent les autres, en fait, quand ils font de la politique, n'est en réalité formulable que si on se donne cette expérience limite-là, où il ne s'agit pas, vous avez raison, de faire de fabriquer un régime, hein, de fabriquer un type de pouvoir, mais il s'agit de se consacrer à l'élaboration de la loi. Donc, d'investir l'esprit dans des questions de justice, si vous voulez. Je dis ça de cette manière-là. Investir l'esprit, qu'est-ce que ça... Ça a dû demander... Voilà, la question de Freud, c'est peut-être ça. Ça a dû demander beaucoup d'efforts et une torsion très particulière pour que dans l'esprit des hommes, la justice soit configurée en problème, pour que ça ne soit pas réglé par les dieux. Ça a dû relever d'un drôle d'épisode mental. Voilà. Et cet épisode mental, en voilà les témoins. C'est ça. En voilà les témoins. Après, qu'il y ait de la politique, donc qu'il y ait des régimes politiques, qu'il y ait une histoire politique avec des rois, des empereurs, des démocraties, des constitutions, etc., c'est pas de l'histoire juive. Mais c'est de l'histoire que on comprend mieux si on a l'expérience juive dans sa limite, hein, en tête. Voilà. Le message politique du texte de Freud, c'est ça. Donc c'est pas.
Il est extrêmement pessimiste.
Oui, bien. Quand je disais qu'il décide finalement de le publier en dépit des risques, etc., c'est pour moi c'est un défi à ce qui est en train d'arriver. C'est un défi à ce que la politique est en train de faire aux juifs en Europe. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est émouvant ce début du texte. J'hésite beaucoup, je sais pas, je vais heurter, etc. Mais en fait, je le fais parce que je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire de le faire. C'est nécessaire de le faire parce que la politique est en train de tuer les juifs. Voilà. Or, la politique est en train de tuer les juifs, en réalité, elle n'est une politique que parce que les juifs permettent de voir ce qu'il y a de vraiment politique en elle.
Mais quand il veut tuer la politique, il essaye aussi de tuer le peuple, il essaye aussi de tuer Moïse. C'est ça qui est paradoxal.
Ça, c'est vrai. Vous avez.
C'est très juste. Le rabbin Chien disait qu'il n'y avait pas de musique juive. La psychologie, la psychanalyse est souvent accusée d'être une science juive. Qui est assez ironique, mais vous êtes beaucoup intéressé à Freud. Qu'est-ce que tout cela signifie de lui? En fait, c'est ça que je veux
dire. De pardon.
De lui. Qu'est-ce que comment vous interprétez le fait de décrire que Moïse n'est pas celui qu'on croit en 1938, alors que c'est pour les Juifs l'un des rares époques que les Juifs ont encore,
enfin, pour les croyants, et même pour ceux qui ne sont pas croyants. qu'est-ce que ça veut dire de Freud? C'est ça que, enfin, en vous écoutant, je me dis, qu'est-ce que ça révèle de Freud de tuer le père? Parce que c'est ce qu'il fait d'une certaine manière.
Hiroshami dit condamne, tu n'aurais pas dû aller jusque là. Voilà. Il y a un reproche, hein, la lettre à Freud de la fin, là, ça se termine par une lettre fictive, il écrit à Freud, il admire Freud, il admire, etc., mais il lui dit là, tu as allé trop loin, c'est le. Alors, je pense, moi, que il a dû peser les choses. Et je vois un aveu de ce qu'il était dans la préface qu'il a écrite à l'édition en hébreu. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il dit je sais juste que je suis juif et être juif pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens juste que c'est la meilleure partie de moi-même. Je sens juste que c'est la... Hein, c'est ça. C'est, je sens juste que c'est la meilleure partie de moi-même. Ben, ce que je vous ai dit de la politique et des gens qui parlent de la politique sans eux-mêmes participer de la vie politique, ou en tout cas sans qu'il y ait de politique juive qui se présente comme un contrepoint de la politique des goyim, c'est une manière d'illustrer le même énoncé, c'est-à-dire c'est peut-être la meilleure partie de la politique, tout simplement.
Moi, je pense que vous allez comprendre ce qu'elle dit, que Freud, le sang par rapport au prochain, donnait un don à l'ensemble de l'humanité. Mais à partir de quoi? Le psychanalyste utilisant l'instrument de l'humanisme. C'est ça que ça dit. Et observez que l'on trouve dans ce livre tous ces ingrédients, y compris le fait que tous ces clients sont venus, parce qu'ils avaient une qualité de vérité, pas résolue. Il dit bon, le code c'est comme ça. Ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. Ça va permettre au moins de saluer mon rendez.
Alors, c'est une conclusion.
Avant de passer à la traditionnelle photo, il y a une question de débat tangé, et puis après, oui, peut-être si Dany veut dire un mot de conclusion.
C'est pas forcément une question, c'est simplement une réflexion à partir de ce qui s'est dit. On était parti d'une question qui était posée par Anaël quand elle a expliqué que poser la question, qu'est-ce qui est premier, le contrat ou le peuple? Et à travers ce que vient de nous dire Rabenstein, on a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'il répond à cette question. Et la réponse, c'est, ça n'est ni le contrat, ni le peuple, c'est un espace nouveau et une masse nouvelle qui fait une expérience. Et cette expérience, c'est une expérience non pas de liberté, mais une expérience de reuta, c'est-à-dire de création d'un lien très particulier au prochain, un lien complexe, un lien d'amour, un lien de... qui fait que les étrangers qui ne sont pas des Hébreux, qui n'ont pas des ancêtres patriarches, etc., désirent s'associer, et c'est cette masse-là qui sort d'Égypte. Donc le peuple est après, et le contrat est encore après. Voilà ce que j'ai cru comprendre de ce qu'on a pu dire.
J'ai entendu aussi la même chose sur la fabrication du lien.
Et ça, c'est extrêmement moderne. Parce que justement, on est dans la notion de ça, on est dans quelque chose du lien qui est effectivement, qui revient.
Oui, parce que ce dont on n'a pas parlé, enfin, ce serait pour un autre séminaire, ce dont on n'a pas parlé, c'est, enfin, le seul moment où on l'a touché, c'est cette question de la diversité. C'est cette question de la diversité et de la pluralité interne, on va dire.
De la vie
et du type de solidarité, en fait,
dont est capable une pluralité différenciée à l'intérieur d'elle-même. C'est ça le... Donc je pense que si on devait poursuivre, ce serait effectivement sur la modernité du propos, ce serait de ça qu'il faudrait s'occuper. Et ça toucherait la réouta.
Alexandre qui insiste pour qu'on stoppe, mais on ne peut pas stopper sans que j'ai dit quelque chose.
C'est dingue.
Apparemment.
Ce pouvoir que tu as.
C'est dingue.
C'est-à-dire que si tu ne parles pas.
Ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais.
Moi, je ne veux pas stopper.
Donc, j'y vais. Non, mais c'est comme ça. Donc, j'accepte mon rôle. Moi, ce qui me frappe de la discussion, quand même, c'est que. Alors que ton interprétation du Moïse de Freud laisse penser qu'il y a dans l'expérience propre du peuple juif une source, on va dire, de modernité politique sous la forme de l'autonomie, alors que quand on donne la parole au Rav, il ne cesse de dire qu'en réalité, les personnages sont agis plutôt qu'agissants, qu'on en fait en quelque sorte des. C'est pas seulement qu'ils n'ont pas de psychologie ou de subjectivité, mais que la vérité de ce qu'ils font se trouve ailleurs que dans leurs propres intentions. Donc il y a là quelque chose de paradoxal. Alors notamment si on regarde du côté des Grecs, on peut quand même pas s'empêcher de penser que les Grecs sont quand même plus autonomes. Alors ils sont plus autonomes parce que ils ne reçoivent pas de loi. Dans un premier mouvement, ils ne reçoivent pas de loi. Dans un premier mouvement, ils décident pour eux-mêmes. Ils décident pour eux-mêmes et c'est pour ça que eux, ils ne parlent pas de destin. Ils décident de leur organisation interne et de leur organisation dans leur environnement. Donc, ils décident de leur loi et ils décident de leur relation extérieure, de la guerre, de la paix. Alors, notamment, on a le sentiment que quand tu dis l'expérience de sa loi. Enfin, sa loi du peuple, de leur loi, on a l'impression que du côté des Juifs, c'est une forme de reconnaissance de la loi comme étant la sienne. Alors que chez les Grecs, c'est quand même la fabrication ex nihilo, pourrait-on dire. C'est une fabrication ex nihilo de la loi sans que le peuple vienne en quelque sorte élaborer à partir de quelque chose qui lui est extérieur. Alors du coup, comment ?
Il y a un sacré chez les Grecs, c'est la cité.
Un quoi ?
Un sacré.
C'est la cité, la cité.
La cité.
Oui, oui. Non, mais j'ai pas dit que je parle pas de sacré. C'est le cadre à l'intérieur. La cité, c'est le fait justement que les citoyens, qu'elle est composée de citoyens et qu'ils puissent agir de manière autonome. C'est ça qui fait la définition de la cité. S'il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus de cité. C'est l'agir qui détermine la nature, qui fait de la cité une cité. Autrement, on a des empires grecs, on a toutes sortes de formes, on peut avoir, mais c'est pas une cité, dans le sens... Et du coup, naturellement, la question qui se pose, c'est, mais alors qu'est-ce que les Juifs ouvrent comme espace de liberté, que les Grecs n'ouvrent pas? C'est la question du destin, que les Grecs n'ont pas. N'ont pas l'idée de leur devenir ou de leur accomplissement dans une aventure ou dans une histoire. Ça, ils ne l'ont pas. Les Juifs l'ont, mais en même temps, quand on interroge ceux quand on l'interroge de l'intérieur de la tradition, là, de nouveau, c'est l'hétéronomie qui semble l'emporter sur l'autonomie. Et donc, il y a là, je trouve, un paradoxe de Et c'est le, enfin, c'est le paradoxe que nous amène Rousseau, d'une certaine manière, c'est de venir avec quelque chose qui paraît archaïque et qui apparaît pourtant nécessaire à la fabrication de la modernité politique, ce qui voudrait dire que il y a quelque chose d'archaïque dans la modernité politique ou...
En tout cas, il y a une hétéronomie.
Voilà, il y a une hétéronomie nécessaire.
Nécessaire dans la modernité, et ça n'est pas n'importe quelle hétéronomie. Okay. On pourrait dire que l'énoncé le plus ramassé,
c'est ça. Voilà.
Il y a une hétéronomie nécessaire à l'autonomie, mais ça n'est pas n'importe quelle hétéronomie.
Ok. Voilà. C'est pas une belle conclusion ?
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à Bruno et à Réel d'avoir animé cette séance. Merci à tout le monde d'avoir y assisté. On se donne rendez-vous pour la prochaine séance dimanche 16 juin de 16h à 19h avec Gérard Bensussan. On continuera sur cette notion de peuple sous le point de vue probablement de Rosenzweig et j'espère que tous vous revoir, y compris Bruno. Et voilà, on passe à la photo qui est par là. Dimanche 16 juin.
Il y a une petite enveloppe
de passion
frais qui a
circulé.
Ah oui,
je vois. Je sais pas utiliser ça. Je vous ai saoulé.